Bien, donc je me présente, je suis Joël Delplanque, je suis donc le modérateur de cette séance de cet après-midi. Je suis inspecteur général de la jeunesse et des sports et j'ai été notamment directeur des sports à l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports. Alors, je vais vous dire que d'abord je suis très heureux de participer à ces travaux. Je me félicite de la participation et puisque les organisateurs ne sont pas là, je vais leur adresser un petit message pour souhaiter que peut-être pour les éditions à venir, que les dirigeants sportifs, de manière générale, les entraîneurs également, puissent plus largement encore participer aux échanges. Je crois que, après toutes les interventions qu'on vient d'entendre, je pense que ça leur ferait, je crois, le plus grand bien de participer aussi, et d'une part de livrer leur expérience, et peut-être de se constituer ainsi, comme moi, j'essaye de le faire, un corps de doctrine au travers de nos interventions les uns et les autres. Donc, nos travaux cet après-midi vont porter sur le thème de l'élitisme vers la marginalité, c'est bien ça, hein ? Alors, il me semble, au travers des interventions telles qu'elles sont décrites, que nous allons nous attacher à examiner le parcours, peut-être, des jeunes qui rentrent dans ce qu'on appelle, dans notre pays, le dispositif d'accès au sport de haut niveau. Alors, c'est un dispositif qui s'est, au fil des saisons, au fil des années, au fil des lois et des règlements, plus ou moins affiné, avec un concept original que chacun d'entre vous doit sans doute connaître, qu'on a appelé à l'époque les sections sport-études. Puis ensuite, on est passé, eu égard à la charge d'entraînement, au souci de rationaliser leur implantation et de faire en sorte que ces structures puissent être pérennisées et surtout offrir un environnement formation plus important, on est passé de ces structures de section sport-études à ce qu'on a appelé les CPEF, les centres de perfectionnement, d'entraînement et de formation. Ce qui voulait, par rapport aux évolutions par rapport aux sections sport-études, ça se voulait être plus généralisé. Et enfin, aujourd'hui, on est dans un dispositif dit de pôle, avec une structuration de pôle espoir et de pôle France. Et dans les clubs professionnels, on trouve des centres de formation, si bien que selon les disciplines, que l'on soit en sport individuel ou en sport collectif, il y a toute une organisation qui fait que, sous l'autorité de la fédération, cette structuration de ce qu'on appelle la filière d'accès au sport de haut niveau s'articule entre la filière fédérale et la filière des centres pour les sports co, les centres de formation des clubs professionnels. La caractéristique de l'organisation du sport de haut niveau dans notre pays, c'est qu'elle est extrêmement encadrée par la loi et les règlements, puisqu'on définit très clairement ce qu'est le sport de haut niveau, on définit très clairement ce qu'est un sportif de haut niveau, on définit aussi assez clairement ce qu'est une discipline dite de haut niveau, et qu'elle s'accompagne de droits et de devoirs liés notamment à la création de structures propres. Et à côté de moi, le docteur ici représente le Centre national d'entraînement et d'altitude de Font-Romeu. C'est un établissement qui a été créé, par exemple, à l'époque, pour préparer les Jeux de Mexico, 68. Voilà. Bien. Voilà, c'est après ce préambule. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Marc Lévesque, qui va donc intervenir sur les effets et les méfaits de l'idéologie sportive. Alors, peut-être sur les jeunes, je ne sais pas. On verra bien.
Merci, Monsieur le Président. Alors effectivement, effets et méfaits de l'idéologie sportive, je vous expliquerai tout à l'heure que j'ai commis un lapsus en rédigeant ce titre. C'est plus l'institution sportive, Monsieur le Président, qui va être au centre de mes préoccupations, de mon intervention. L'institution sportive, en tant qu'elle est en charge de la gestion des acteurs, les athlètes, mais aussi les entraîneurs et d'autres personnes. Et c'est l'institution sportive en tant qu'elle est porteuse et pourvoyeuse de ce que l'on définira ensemble, c'est-à-dire une idéologie, une certaine conception du sport. C'est en ce sens qu'elle m'intéresse dans cette intervention. Donc en fait, ce que je voudrais faire, c'est interroger cette notion d'idéologie sportive et l'interroger de façon plus insistante peut-être que d'habitude, en tant qu'elle me semble capable d'expliquer un certain nombre de réactions, un certain nombre de comportements, un certain nombre de prises de position des acteurs qui sont au sein de l'institution. Et quand j'entends acteurs, les entraîneurs et les dirigeants y sont inclus. Mon intervention sera plus conceptuelle, elle sera illustrée, j'espère que vous l'entendrez comme ça, mais elle sera plus conceptuelle que clinique, c'est-à-dire qu'elle ne se basera pas sur du matériel clinique de première main, ce que je n'ai pas. Je n'ai pas de patients, je n'ai pas de consultants, c'est plus un travail d'universitaire, mais d'un universitaire qui va sur le terrain, qui est allé souvent, qui va encore, et qui observe ce qui se passe. Néanmoins, c'est une intervention qui assume tranquillement un caractère spéculatif. C'est une réflexion. C'est une réflexion qui n'est ni pro ni anti-sport. Elle n'a pas de couleur comme ça. Elle se veut simplement interrogative et participer à la réflexion. Alors, à propos d'idéologie, bon, présumer du caractère idéologique du sport contemporain, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est pas un scoop. D'une part, le terme d'idéologie a souvent été appliqué de façon critique au discours de Pierre de Coubertin et aux valeurs qu'il a prônées. On a parlé de construction idéologique, mais là, de façon un peu négative, un peu critique. Mais des auteurs importants, des sociologues, des philosophes, je pense à Daniel Guay, Georges Vigarello, Isabelle Keval, qui a été citée ce matin, Yves Vargas, Paul Lyonnais, ce matin André Roche l'a exprimé lui verbalement, les autres auteurs l'ont écrit. Ils ont recouru fréquemment, ces auteurs, à la notion d'idéologie sportive, très très fréquemment, très banalement, dans la substance de leurs textes, mais sans s'attarder, sans expliciter, sans approfondir, comme si ça allait de soi, comme si ça s'imposait d'emblée que le sport de compétition, de performance, est une construction idéologique. Donc ce que je veux faire, moi, avec vous cet après-midi, c'est tout simplement interroger de façon plus insistante cette notion d'idéologie sportive, c'est-à-dire d'abord la définir, ensuite regarder si le sport correspond effectivement à un certain nombre de critères qui caractérisent généralement les idéologies, et enfin spéculer sur les effets et les méfaits de l'idéologie sportive sur les acteurs dans leur quotidien. Le lapsus, il est que je n'ai pas utilisé le mot « bienfait ». Or, l'antonyme de « méfait », c'est quand même « bienfait ». Et je ne sais pas pourquoi, je m'interrogerai, j'ai mis « effet ». Voilà. Donc ça, c'est ma question. C'est s'il y a des effets, des bienfaits, des méfaits de l'idéologie sportive sur les acteurs, quels sont-ils? Comment peut-on les décrypter? Puis j'irai voir chez certains auteurs. Ce n'est pas une réflexion solitaire, c'est une réflexion argumentée et référencée. Alors d'abord, ce qu'il faut qu'on fasse ensemble, c'est définir, se donner une définition commune du terme idéologie qui est largement dévoyé, bien sûr, très utilisé. Et moi, je prendrai le parti de garder mes distances avec l'évocation des grandes idéologies, des idéologies politiques, des idéologies religieuses, de celles qui opposent les quatre coins de la planète. Ce n'est pas de ces idéologies-là dont je veux parler. Ce n'est pas de celles qui tuent ou qui oppriment. Donc je vais me cacher derrière une définition un peu lignifiante, peut-être, hein, mais classique. C'est un système cohérent de pensée et de représentation. Et ce qui est important aussi, c'est que toute idéologie articule psychisme individuel et construction sociale. L'idéologie, c'est un trait d'union entre l'individuel et le social, et a priori un trait d'union très harmonieux. C'est-à-dire que toute idéologie ordonne les vies, ordonne les réactions, ordonne les comportements individuels à des normes collectives. On retrouve la notion de normes collectives. C'est un ensemble d'idées, de signifiants qui sont articulés et qui sont subordonnés à un idéal. Ce qui assure en fait à l'idéologie, puisqu'il y a un idéal, ce qui assure à l'idéologie une forme de, ou à celui qui participe à l'idéologie, une forme de toute puissance narcissique, bien sûr, au creux de l'idéologie, au chaud dans l'idéologie, on peut se sentir tout puissant, mais en même temps, on est asservi à un contrat groupal d'obligations et d'interdits. Donc l'idéologie, c'est un système partagé de représentation qui sert la construction de l'identité collective, qui autorise un sentiment d'appartenance et qui filtre une certaine conception du monde. Cette phrase de René Caës, et j'en profite pour vous dire qu'il y a un bouquin merveilleux là-dessus qui s'appelle « L'idéologie, études psychanalytiques » de René Caës. « Tous les appareils éducatifs côtoient des formations idéologiques aux effets régulateurs. Tous les appareils éducatifs, et par exemple le sport, comme par une sorte de nécessité sociale. » Que vous dire encore au niveau de la définition, j'emprunte là à Jean Servier, c'est que toute idéologie se fonde d'abord sur un corpus d'idées, de pensées, mais que toute idéologie surtout subordonne des modalités d'action dans le réel à ce corpus de pensées. C'est-à-dire que la pensée est toute puissante, mais se traduit en stratégie, en procédure, en comportement, en précepte d'application. Donc, dans toute idéologie, l'action est inféodée, elle est prescrite par les positions idéologiques. C'était le plus difficile, pardonnez-moi le petit détour théorique. Alors, le sport intensif, le sport de compétition, le sport de performance, apparaît-il d'emblée comme une possible construction idéologique ? Bon, déjà, il y a des gens très éclairés qui l'ont dit, mais si on observe le quotidien, ben, tout simplement, le partage militant de valeurs communes, le sentiment d'avoir le privilège de vivre un quotidien exaltant, la stéréotypie des comportements et des modes d'expression, on y reviendra, les difficultés de mise en mots et d'élaboration verbale, les démonstrations et célébrations d'appartenance communautaire, ce qu'on appelait ce matin les messes, eh bien tout ça, ça, intuitivement, je dirais, à partir d'observables, ça nous fait penser que ce n'est pas complètement abruti de référer cette notion d'idéologie au quotidien sportif. Alors, pour dire les choses autrement, toute communauté, par la prégnance de ses idéaux, crée à la fois une conscience collective et un sentiment d'appartenance fortement ancré. Et l'institution sportive, la communauté sportive, bien ma foi, elle s'appuie sur l'existence de mythes, n'est-ce pas, elle a des racines légendaires et historiques, elle s'appuie sur la prolifération des rituels, des codes partagés. Cette communauté, elle a des emblèmes ostentatoires, elle a des célébrations magnificentes, nous avons bientôt les JO. On peut penser qu'il y a une uniformité sémiologique qui devient emblème et signe de reconnaissance pour les sportifs au sein de la communauté. Alors, René Caës nous apporte quelques compléments d'informations, un peu raides, mais je tiens quand même à les signaler. Il nous dit que l'idéologie implique un triple assujettissement à l'idée, nous l'avons déjà dit, à l'idéal, nous l'avons déjà dit, et à l'idole. Alors, ce triple assujettissement, idée, idéal, idole, donne au sujet, en contrepartie qu'il s'assujettit, ça lui donne une triple assurance, et qui n'est pas pour rien. Pour tout être humain, d'abord, une idéologie protège contre une menace vitale d'effondrement et de perte. Ensuite, toute idéologie sert de défense contre l'ouvert et l'inachevé. Et enfin, toute idéologie permet l'accomplissement d'un fantasme narcissique, d'omnipotence, d'omniscience, d'immortalité. Donc, une idéologie, c'est le retour possible d'un désir narcissique accompli, d'une idéalisation primaire. Et ça, ça fait plutôt du bien à tous les adeptes des idéologies. C'est l'illusion narcissique de la toute-puissance qui peut à nouveau se manifester. Et enfin, l'idéologie présente l'avantage d'articuler l'intrapsychique et le sociétal, je le reprends. Mais en même temps, elle suture cet espace, elle le fige entre l'intrapsychique et le sociétal, mais tout en le figeant, elle les fait tenir ensemble, et ça c'est extrêmement précieux. Songeons par exemple au fait que beaucoup de jeunes actuellement qui ne sont pas sportifs et qui ne sont pas protégés ou adeptes d'une idéologie, songeons à la façon dont ils ont du mal à articuler leur propre structuration psychique avec les idéaux sociétaux qui ne sont pas encore les leurs ou qui sont loin d'eux. Mais en contrepartie, bien sûr, une idéologie nie les disparités, nie les paradoxes, nie les contradictions pour préserver un cadre commun. Alors après cette période, vous pouvez mettre bien fait et méfait si vous voulez, mais je ne suis pas sûr des valences positives ou négatives. Après cela, je vais essayer de voir, en m'appuyant sur quelques auteurs, en quoi le monde sportif bénéficie ou pâtit des avantages ou des inconvénients d'être une construction idéologique, c'est-à-dire un système très cohérent de pensée et de valeurs. Alors, premier point, il y en a cinq, et chaque point sera d'abord présenté de façon un peu théorique, puis illustré ensuite par des observations de terrain. Premier point, toute idéologie, on le sait, fournit de l'énergie, elle est pourvoyeuse d'énergie. Et pour une raison qui est très évidente, c'est qu'elle offre à ses acteurs, à ses disciples, un objet univoque d'engagement. C'est-à-dire que toute l'énergie peut être organisée et orchestrée et mise au service d'un seul idéal et d'une seule cause. Et il y a convergence des efforts. Pulsions et représentations vont se ramifier d'une façon exemplaire dans un investissement qui va être univoque. Il y a une très belle formule de Pierre Ansart qui dit que dans une idéologie, on fixe son désir dans un agir. Et le désir ne tergiverse pas comme il a l'habitude de le faire. Alors les modèles d'inscription sont clairement définis, les pôles identificatoires sont attrayants et circonscrits, on sait comment on peut trouver un support de valorisation personnelle et on sait comment on peut s'affirmer. Et ce qu'on fait a du sens immédiatement, puisque dans toute idéologie, il y a une immanence essentielle du sens à la pratique. C'est aussi une citation de Pierre Ansart. L'activité qu'on mène dans une idéologie, elle sert des objectifs qui sont magnifiés socialement, qui sont très embellis, et en même temps, elle ne sert pas des objectifs divergents. Et ce qui pourrait caractériser l'idéologie sportive par rapport aux idéologies politiques ou religieuses dont je ne veux pas parler, c'est que l'idéologie sportive ne mobilise pas contre, mais elle mobilise pour, vers un idéal, alors que les autres idéologies ont tendance à s'affronter les unes les autres. Et dans l'idéologie sportive, eh bien, il y a le dépassement de soi, qui est une valeur cardinale, bien sûr, et qui constitue un objectif défini, un objectif exaltant, et qui, en plus, a la particularité d'être un objectif qu'on ne pourra jamais atteindre, puisque par définition, il est infini. Donc, il y a une illusion qui est extrêmement puissante de l'accès individuel à un rayonnement et à un accomplissement délimité. Alors, cette dilatation de l'énergie existe-t-elle dans le monde sportif ? Je crois que toute personne qui va travailler dans le monde sportif peut s'apercevoir qu'elle n'a jamais rencontré un monde, un autre monde où on travaille autant, où on est autant dans le zèle, où on est autant dans le dévouement. Et je pense tout autant à la détermination des efforts, à l'insistance des athlètes, bien sûr, mais aussi des entraîneurs, aussi des dirigeants, de tout un tas d'acteurs périphériques qui sont jamais fatigués, jamais saturés, toujours disponibles pour un surcroît de travail et un engagement complémentaire. Toujours prêts à se mobiliser pour défendre leur cause, pour l'animer, pour promouvoir le sport et ses valeurs, ou tout simplement pour travailler d'arrache-pied parce que l'idéal s'impose et l'idéal est porteur et l'idéal génère de l'énergie comme seuls les grands idéaux peuvent en générer. Et petite parenthèse un peu spéculative, l'entreprise aimerait bien importer en son sein les effets positifs sur la libération d'énergie que le monde sportif lui montre. Ça marche ou ça marche pas, mais on sait que l'entreprise utilise beaucoup le modèle sportif. Et je prends là une phrase d'Yves Vargas que j'aime bien, c'est du point de vue de l'entreprise, donc le sportif est un ouvrier modèle qui rend pensable un travail sans conflit et sans exploitation. Donc l'idéologie, première qualité extrême, libère de l'énergie, mais cette qualité, on peut la voir à revers comme aussi source de pathologie induite, comme on l'a dit ce matin. Deuxièmement, toute idéologie assure une fonction intégratrice, elle offre ce que Pierre Aulagnier appelle un contrat narcissique, c'est-à-dire une réassurance. Toute idéologie permet à des personnes qui seraient dans l'errance, qui seraient dans la marginalité, qui seraient dans le désarroi, dans le risque de décompensation, le risque de rupture, toute idéologie offre un cadre symbolique, un arrimage social qui permet à ces personnes de ne pas décompenser, de ne pas déraper, de ne pas casser. C'est notamment vrai, ça, vous pouvez tous le constater, dans les clubs qui sont plus ouverts encore que l'institution sportive de haut niveau, où on voit bien que viennent se greffer, là, un certain nombre de personnes plus ou moins malheureuses, plus ou moins fragiles. L'institution sportive, pour prendre une autre grille de référence, peut apparaître comme tuteur de résilience, hein, quelque part. Il y a une prise en charge collective des marginalités, et les valeurs de l'institution sportive offrent une structure d'accueil à des personnes en déshérence, à des personnes démunies. Ça a des effets précieux de réduction de l'angoisse individuelle, ça permet de canaliser aussi l'énergie, on reprend le premier argument, et ça prescrit des orientations à une vie qui échappe un petit peu, c'est-à-dire servir cet idéal, fût-ce véritablement à la marge, hein, comme coupeur de citron ou comme porteur de fanion, mais cette fonction thérapeutique des idéologies, elle est importante à signaler, et j'ai l'impression qu'elle fonctionne en sport. En gros, les idéologies ont un effet sédatif des conflits intrapsychiques. Ça peut se dire comme ça. C'est pas la bonne page. Et Pierre Ansart, encore lui, appelle ça l'effet clinique du code. Les idéologies sont saturées en codes univoques et le code a un effet clinique, c'est bien connu, de canalisation et de fixation du désir. Et l'idéologie sert de point d'arrimage, de structure d'arrimage à des personnalités en difficulté. Troisième caractéristique des idéologies, dont l'idéologie sportive, toute idéologie amortit le retentissement émotionnel des événements. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin pour les grandes idéologies. Hein. Mais pour ce qui est du sportif, ça concerne notamment tout ce qui est dans l'action, dans la compétition, les résultats, hein, les résultats, les désillusions, les difficultés, les embûches. Eh bien, le sportif est moins affecté par l'impact émotionnel des événements qui ponctuent son parcours. Alors, il est moins affecté, pourquoi ? Parce que ses résultats, ses écueils, ses difficultés sont minimisés ou intégrés avec plus de facilité parce qu'il y a une croyance plus forte au-dessus dans les valeurs défendues. Et cette croyance plus forte, cet idéal, va amortir l'impact des soubresauts quasi quotidiens. Donc en fait, tout système de représentation idéologique fait écran à l'émergence du sensible et tient à distance le corporel et le pulsionnel, ou on pourrait dire l'émotionnel. Et les valeurs fortes qui restent centrales, dépassement de soi, acceptation de la défaite, respect de la loi du sport, par exemple, eh bien, ces valeurs fortes vont minimiser l'impact dépresseur des difficultés. L'idéal intériorisé va soutenir le moi contre l'incertitude du monde réel et va permettre d'amortir le retentissement interne des revers, des blessures narcissiques et des désillusions. À la limite, et ça c'est pas très favorable, à la limite, cette couverture par l'idéologie va faire que des sujets sportifs vont rester aveugles aux signes extérieurs qui pourraient leur dire qu'ils sont pas faits pour le sport, par exemple. C'est-à-dire que de défaite en défaite, faut peut-être commencer à envisager qu'on n'est pas forcément fait pour ça et qu'il serait peut-être bon de privilégier d'autres investissements. Mais justement, comme elle amortit l'effet des frustrations vécues, comme elle offre une légitimité aux efforts, l'idéologie peut contribuer à maintenir en son sein des personnes qui, en fait, ne pourront pas se montrer dignes de l'idéal. Un quatrième argument, peu favorable celui-là, c'est que l'idéologie, toute idéologie, est créatrice de tensions internes, d'anxiété, et d'anxiété sur la valeur qu'on a, sur sa valeur personnelle. Alors pourquoi ? Ben c'est tout simplement parce que dans toute construction idéologique, chacun doit se montrer le plus digne possible de l'idéal qu'il défend ou auquel il adhère. Et se montrer le plus digne possible de cet idéal renvoie inévitablement à ses carences, ou tout simplement à ses carences par rapport au voisin qui fait mieux pour servir l'idéologie. Donc en fait, les atermoiements et les inquiétudes internes sont ravivées par la comparaison avec les autres adeptes et la crainte de ne pas servir l'idéologie avec le même empressement, avec la même exemplarité. Dans toute idéologie, chacun veut en permanence attester de son engagement et chacun redoute d'être stigmatisé ou dénoncé comme un mauvais serviteur de l'idéologie. C'est-à-dire qu'en gros, l'idéologie recrée une menace d'origine interne qui dit à chacun « suis-je capable, suis-je digne de, suis-je un bon serviteur de cette idéologie ?» Et je me perds un peu. Alors oui, dire que cette analyse-là, en fait, de stresseur interne qui serait dû à l'idéologie, c'est une analyse qui me paraît porteuse d'intérêt, au sens où on sait bien que le monde sportif, la psychologie du sport traditionnelle, elle a toujours rejeté la responsabilité des facteurs stressants à des facteurs externes, à des facteurs environnementaux. Le public, les pressions, voilà un mot que je déteste parce qu'il ne veut rien dire et qu'il est simplement projection sur l'extérieur. C'est un mot écran, ça veut strictement rien dire. Et ces projections sur l'extérieur, comme ça on s'en débarrasse de cette incertitude interne, suis-je capable de, suis-je digne de représenter l'idéal et de bien le servir. Et donc on a une autre analyse là qui est celle de l'intériorisation en fait d'une angoisse qui est générée par l'idéologie et ses exigences. Je vous laisse le soin d'y réfléchir, mais il me semble que ça peut être intéressant de réfléchir comme ça. Et enfin, l'idéologie normalise les comportements et assèche l'expression verbale. Là je vais peut-être vous choquer, mais toute idéologie impose ou suggère une orthopraxie, donc une normalisation des comportements, et toute idéologie freine, on va dire, l'échange verbal, la fluidité de l'échange verbal. Pourquoi ? Ben d'abord parce que dans une idéologie, le principal, c'est de fonctionner, et de fonctionner de façon efficace au service de l'idéologie. Donc on fonctionne de façon plus efficace avec des fonctionnements normés, préétablis, préprogrammés. Et puis les procédures qui sous-tendent l'efficacité sont privilégiés par rapport à la sensibilité qui fout le bordel dans l'action. Pour ce qui est de la stéréotypie des comportements, je pense que vous pouvez l'observer, notamment dans le comportement des athlètes, mais aussi malheureusement dans le comportement des entraîneurs. C'est peut-être là où le poids de l'idéologie s'inscrit le plus dans des comportements normés, répétitifs, voire conservateurs. Sous un habillage très dynamique, il y a énormément de normalisation des comportements, notamment chez les entraîneurs. Sous l'ordonnancement habituel, très directif d'ailleurs, de la relation entraîneur-entraîné. Alors, quand je dis ça, en même temps que l'idéologie sportive normalise les comportements, je suis un peu mal à l'aise parce que le sport est un lieu où on fait de la recherche, où on essaie d'utiliser au mieux les nouvelles technologies, les nouveaux apports scientifiques, et on est novateur, innovant, incontestablement. Mais en même temps, on pourrait s'interroger sur les modalités véritables qui sont offertes aux sciences et aux nouvelles technologies dans l'institution sportive, et se demander peut-être quel est le rôle que le monde sportif fait jouer ou essaie de faire jouer aux scientifiques qui l'accueillent. Au niveau de l'expression verbale, l'idéologie, elle est d'abord responsable de la production de commentaires et d'analyses complètement stéréotypées, aseptisées, bornées par des mots écrans, comme je l'ai dit, des formules toutes faites qui sont engluées dans la stéréotypie et la répétition. L'idéologie, elle s'oppose aussi à la délivrance d'une parole sensible, d'une parole impliquée sur son activité et son ressenti, pour une raison très très simple. C'est que dans toute idéologie, il est plus important de regarder ensemble et de travailler dans la même direction. Il est beaucoup plus important de faire ça que de prendre le temps de s'épancher et d'interroger sa position et son vécu. Donc en fait, l'idéologie a tendance à privilégier la coopération fonctionnelle et la solidarité par opposition aux échanges interpersonnels qui sont une perte de temps et une déviance. Voilà, j'ai fini mon diaporama, c'est parce que je voudrais en venir à quelques éléments de conclusion. Ça va ? Ça va ? D'accord. Alors, pour résumer, une idéologie, et l'idéologie sportive, c'est une fonction structurante et socialisante puissante, une capacité à fournir un système symbolique propice à l'intégration. Mais d'un autre côté, c'est une contrepartie, l'inféodation, l'abandon d'une partie des prérogatives personnelles, la soumission à une organisation supérieure. Voilà, j'ai développé tout ça, c'est un résumé. L'institution sportive, elle articule un discours collectif qui fait de la performance sportive un objet digne de reconnaissance, et un corps individuel qui veut s'accomplir, qui veut aller vers son assomption. Mais Jacques Birouste, que j'ai déjà cité ce matin, a raison de dire que ce dispositif d'interface entre le discours collectif et l'imaginaire individuel, eh ben, il a tendance souvent à se prendre lui-même comme objet et à devenir répétition compulsive avec des comportements normés et assujettis. Ça veut dire qu'on tourne un petit peu en rond. En d'autres termes, dans l'idéologie, le sportif, il est pris en charge, il est porté, il est entraîné dans un dispositif qui le dépasse et qui n'a que faire de son questionnement personnel. Le sportif applique et répète des enchaînements qui sont prescrits par la machine institutionnelle sans vraiment toujours pouvoir les subjectiver et leur attribuer du sens. Mais il faut aussi rappeler, parce que je n'ai pas envie d'être partisan ou militant dans cette intervention, il faut aussi rappeler à quel point cette intériorisation des valeurs, des signifiants, des idéaux sportifs, elle soutient l'effort quotidien et elle offre aussi des perspectives d'accomplissement individuel tout à fait intéressantes. Être sportif de haut niveau, c'est une façon d'être au monde, d'être dans le monde. Mais justement, on ne s'est pas suffisamment intéressé à l'être au monde dans l'institution sportive, là où l'idéologie s'imprime. Ce n'est pas dans les compétitions que l'idéologie s'imprime. Elle est célébrée dans l'institution, mais dans les compétitions, mais elle s'imprime dans l'institution. Et il faudrait sans doute mener des études de type ethnographique sur le quotidien des acteurs, dans l'institution elle-même, pour essayer de mieux comprendre comment se propagent les valeurs, comment elles sont intériorisées, comment elles imprègnent et façonnent les psychismes. Dans ce colloque, l'année dernière, il y avait le concept de la bulle, qui me paraissait intéressant et qui pourrait resservir là. Parce qu'en fait, les valeurs et les commandements sportifs, c'est dans l'institution sportive qu'ils suintent par tous les orifices, c'est-à-dire c'est là qu'il y a une vie psychique propre au lieu et aux liens institutionnels, et c'est là où l'idéologie imprime ses valeurs. Hein. L'institution sportive, c'est le creuset. Elle fournit un humus, un terreau sur lequel les jeunes talents vont prospérer. Elle leur offre un contrat narcissique, elle les reconnaît comme membres d'une communauté chaleureuse et valorisée, mais en même temps, elle exige, l'institution sportive, que le jeune s'affilie à ses valeurs, à son ordonnancement, qu'il exhibe ses attributs, qu'il cultive sans faiblesse ses signifiants, et en échange, elle lui offre une prise en charge et elle lui donne une reconnaissance. Alors, pour pourquoi l'idéologie sportive, elle tient ? Elle tient peut-être parce que, quelque part, elle englobe, elle a un caractère plus plastique que d'autres idéologies beaucoup plus précises, beaucoup plus ciblées. Et elle va d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur une mythologie, elle s'appuie sur une histoire, sur des légendes, sur des faits héroïques, et puis en même temps, et je n'ai pas besoin de dessin à vous faire là-dessus, elle s'appuie sur des valeurs socio-économiques actuelles qu'elle a complètement intégrées et qui lui offrent une légitimité accrue. Il y a eu une interview d'Isabelle Keval toute récente là, dans un magazine. J'ai bien aimé ce qu'elle disait. Elle disait que le sport absorbe les autres idéologies. Et c'est surtout ça que j'ai adoré. Elle dit qu'elle les recycle. L'idéologie sportive recycle les autres idéologies. Et finalement, dans l'idéologie sportive, on met les valeurs que l'on veut, y compris les valeurs socio-économiques libérales, pour autant qu'on ne touche pas au socle. Alors, toute dernière chose, cette réflexion, je ne sais pas si elle sert à grand-chose, c'est vous qui en déciderez, mais au moins sur un point, je pense qu'elle devrait faire réfléchir ceux d'entre nous qui vont sur le terrain sportif et qui sont des cliniciens, médecins, kinés, psychologues, peu importe. A priori, quand nous allons sur le terrain sportif, nous y allons avec notre potentiel de clinicien d'interrogation du sens, d'interrogation du quotidien, ce que Foucault disait de déconstruction du sens, ou ce que Gaget disait, la clinique est isomorphe à l'épistémologie, ça veut dire qu'on interroge, ce qui se passe. Donc la clinique devrait mettre en débat l'emprise de l'idéologie sportive sur les sujets. Sauf que, quand nous allons sur le terrain, nous aussi, cliniciens, probablement que nous y allons sur des rôles prescrits et probablement que nous y allons avec une limitation que nous avons du mal à conscientiser, nous avons du mal à lutter aussi, une limitation de notre champ d'action, que nous n'y allons pas avec tout notre potentiel de réflexion et de déconstruction du sens, non pas dans un sens ravageur, mais tout simplement dans un sens de questionnement. Et peut-être pourrions-nous marquer au sein de cette idéologie sportive davantage que nous sommes du côté du sujet et de sa demande. Peut-être nous pourrions nous déprendre davantage des raies de cette idéologie. Et peut-être que nous pourrions parfois éviter de cautionner ou de nous laisser abîmer par les logiques fortes de cette idéologie, encore une fois, lorsque nous y allons dans un habit de clinicien. Je vous remercie.
J'ai le sentiment, mais sans vouloir prendre parti non plus dans ce débat, je pense qu'on aura l'occasion de le faire ensuite à l'issue des interventions, mais quand même cette idéologie que vous évoquez, que vous avez décrite, semble-t-elle un caractère assez aliénant.
Président, vous remarquerez que je n'ai pas utilisé ce mot-là.
Oui, alors moi je l'ai employé évidemment à dessein, mais je pense qu'on rebondira dans le débat vraisemblablement. Monsieur Christophe Brisonneau, vous êtes donc sociologue à l'Université de Paris-Descartes et vous allez intervenir donc sur le thème du monde ordinaire vers le monde extraordinaire du haut niveau, le choc des normes. Alors c'est peut-être le chemin de l'idéologie vers le sujet ou du sujet vers l'idéologie. On verra éventuellement si vous pouvez poursuivre dans la veine de Marc Lévêque.
Bien, le travail que je vais vous présenter est un travail que je mène depuis une dizaine d'années. Je me pencherai sur le cas du cyclisme. Alors je vous prie de m'excuser, il n'y a qu'une ou deux dias, mais j'ai scratché ma présentation hier. Il y avait des extraits d'entretien qui sont relativement intéressants, que je vais essayer de vous redonner. Donc depuis une dizaine d'années, je travaille sur la socialisation sportive, surtout vers le haut niveau, et à travers la question de la pharmacopée. Pour moi, la pharmacopée, donc, ce sont les produits pharmacologiques légaux et illégaux que l'on appelle le dopage. En accumulant tout au long de ces années, en accumulant donc des entretiens de cyclistes, j'allais dire dopés, enfin de cyclistes, qui ont pris des produits pharmacologiques, eh bien, il est apparu une sorte, je dirais, de schéma, de tableau que je vais vous présenter et qui ne représente pas, je dirais, de façon précise chaque trajectoire sociale de chaque cycliste, mais évidemment chacune est différente, mais permet de comprendre un certain nombre de processus. Donc on va rester un certain temps sur ce tableau que je vais décoder avec vous. Donc en accumulant ces entretiens, alors je tiens à préciser que ce travail a également été fait aussi dans d'autres sports, où des sportifs ont pris des produits légaux et des produits interdits. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et je tiens à préciser que ce schéma est valable pour les années 1980 à 2003. Pourquoi 2003? On aura peut-être aussi l'occasion d'en parler. C'est qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont mises en place en France après l'affaire Festina. Ça a mis du temps à se mettre en place. Et que là, actuellement, je travaille avec des jeunes cyclistes dans différents pays, la France, la Suisse, la Belgique. Et on voit qu'au niveau des discours, il y a des changements. Déjà, dans tous les cas, ceux qui, des années 80-90, me parlaient librement de leur pratique de dopage, on s'aperçoit qu'actuellement, on n'en parle plus aussi facilement. Alors, à partir de ces entretiens, eh bien, tout d'abord, on va voir un peu un passage. Alors, c'est un terme que j'ai repris à Bruno Papin, qui a travaillé sur le haut niveau, sur la gymnastique, qui parle donc d'un monde ordinaire, d'un monde extra, et il a mis exprès tiré ordinaire, qui sort de l'ordinaire. Et comme on travaille également sur les carrières, je travaille depuis quelques temps également sur l'après-carrière, où également il y a parfois la consommation de produits pharmacologiques. Et donc, il y a un retour dans le monde ordinaire. Ensuite, dans ce monde, eh bien, dans ce monde ordinaire, on s'aperçoit qu'il y a d'abord il y a deux phases. Alors, je décris une carrière professionnelle et je me suis aperçu pratiquement, alors évidemment, ce n'est pas aussi juste, mais c'est pour bien comprendre un certain nombre de processus, je me suis aperçu que sur cette carrière professionnelle venait se greffer une carrière pharmacologique. Alors, cette carrière professionnelle, eh bien, donc, il y a deux phases. Une phase où on va découvrir le vélo, je vais revenir dessus. Ensuite, il y a une phase d'apprentissage, on s'aperçoit rétrospectivement que c'est déjà un apprentissage professionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on passe dans le monde extraordinaire, ce sont des professionnels, mais dans le sens où ils ont un contrat de travail. Auparavant, quand on est dans le monde ordinaire, on s'aperçoit que les cyclistes ont quand même pas mal de sources, je dirais, de rentrée d'argent à travers les courses qu'ils font, à travers les aides par les clubs, etc. Et on peut déjà parler de professionnels. Dans ce monde extraordinaire, eh bien, j'ai pu donc discerner à nouveau deux phases, et dans le monde ordinaire, donc une cinquième phase. Également, ce qui ressort de façon qui me surprend encore, pour comprendre un petit peu donc, ces normes, comment elles se développent, et en comprenant quelles sont les normes qui sont valorisées, on va comprendre pourquoi on passe à un certain type de produit. Il y a la question du dopage, c'est pas simplement, il y a les pairs, il y a les entraîneurs, il y a les anciens, mais ce qui ressort chez les sportifs que j'ai rencontrés, et pas seulement les cyclistes, de façon très paradoxale, c'est les médecins. Les médecins qui participent à la socialisation sportive. Alors, ce que je tiens à souligner, c'est que lorsqu'on intègre un certain nombre de représentations, qu'on les intègre, eh bien, on les intègre parce qu'on a des interactions avec d'autres sportifs, et donc, à force de parler de produits, de santé, eh bien, on incorpore un certain nombre de valeurs. Mais il y a également le fait qu'on peut aussi incorporer un certain nombre de normes du fait du prestige de la personne. Et dans notre société, le médecin, la blouse blanche, est quelqu'un d'extrêmement important. Et lorsqu'il parle, on voit régulièrement le médecin, mais également le discours qu'il peut véhiculer vient d'une personne relativement prestigieuse, et donc on peut également aussi facilement l'absorber. Donc je vais faire le lien entre les différentes phases au niveau des normes, en lien notamment avec les interactions avec les membres du corps médical. Alors, première phase de la carrière professionnelle, eh bien donc ces cyclistes me disent « j'avais un champion, mon père était cycliste, m'a offert un vélo, j'avais envie depuis longtemps de faire un sport où on se fait mal, on fait du vélo, on achète un vélo et on découvre un petit peu le cyclisme, le vélo, on part quand on veut ». C'est-à-dire qu'on s'entraîne quand on a envie, on y va une fois, on y va deux fois par semaine, on y va parce qu'on a des copains, on s'amuse, on y va pour le seul plaisir, qui d'ailleurs ne disparaît pas ensuite. Alors sur la notion de santé, eh bien, dans les discours que j'ai pu obtenir, ils me disent « mais la santé, on n'en parle pas quand on est gamin, qu'on a 10, 12, 13, 14, 15 ans, quand on va faire du vélo, c'est pour le plaisir, être avec les copains, la joie de se faire mal ». Et la santé est un terme qui ne revient pas dans les discours, ou extrêmement peu, on ne s'en préoccupe pas. Si on a des problèmes de santé, ben c'est dû à une rougeole, à un problème de dents, etc. Et donc, on va aller voir un médecin généraliste. Ce médecin généraliste, on est obligé d'aller le voir au moins une fois par an pour avoir un certificat de non-contre-indication. Alors, je tiens à préciser, il y a cinq phases. Donc, j'ai certains de mes sportifs qui sont arrivés à la cinquième phase, mais tous n'y arrivent pas. C'est-à-dire que certains peuvent rester à la première, faire jusqu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la première phase. Et c'est en fonction du niveau, évidemment, on va en avoir de moins en moins, que certains vont passer dans la deuxième, troisième ou quatrième phase. Donc, dans la deuxième phase, vers 17-18 ans, eh bien, on est repéré par des cadres sportifs de clubs, de la fédération. Et là, on va passer dans un club de haut niveau amateur. Et déjà, il faut comprendre qu'il y a autant, il y a énormément de clubs sur toute la France au niveau du cyclisme, ce qui est valable aussi pour les autres sports. Eh bien, ces clubs amateurs de haut niveau, il y en a extrêmement peu. Ce qui fait que finalement, eh bien, le club auquel on est rattaché, à qui on va faire les compétitions, sont parfois à 50, 60, 80, 100 km. Et ce qui fait que, eh bien, de ce fait-là, premièrement, on s'entraîne souvent seul. C'est-à-dire que, à la différence d'autres sports comme l'athlétisme, eh bien, en cyclisme, on s'entraîne seul, ou alors on s'entraîne avec d'autres cyclistes qui habitent dans la région et qui, finalement, appartiennent à d'autres clubs qui sont quand même des adversaires, et on partage des moments d'entraînement, etc. Ce club, on va aller quand même s'entraîner à 100 km, et donc il y a un investissement temps qui est important. Donc on s'aperçoit, alors que dans la première phase, les temporalités sont autour de la famille, autour de l'école, eh bien, si on s'investit donc dans ce sport, on est obligé de grignoter sur le temps pour aller se déplacer, pour aller faire les compétitions. Donc le cyclisme devient quelque chose de relativement important, et là, on voit apparaître le terme de santé. C'est-à-dire que, en allant dans les clubs de haut niveau amateur, donc dans les années 80-90, eh bien, quand on va courir régulièrement, on est sur le vélo. D'abord on court, et puis après on parle de jeux vidéo, enfin peut-être pas à l'époque, on parle de filles, et puis à un moment on parle de la santé. Est-ce que tu fais attention à ta santé? Est-ce que ça va la santé? Et ce terme commence à devenir récurrent. Et ce terme est de plus en plus utilisé par les pairs, par les autres cyclistes, par les anciens, par les entraîneurs. Est-ce que tu fais attention à ta santé? Et donc, on va pousser le cycliste à dire, est-ce que tu vois un médecin? Bah oui. Non, mais est-ce que tu vois un bon médecin? Et donc, le bon médecin, eh bien, c'est plus un généraliste, c'est un médecin du sport, qui a l'habitude, qui connaît les traumas, qui connaît la fatigue, et qui va s'occuper donc de ta santé. Et là, on s'aperçoit dans les discours qu'en même temps, eh bien, on voit une utilisation de produits comme le fer, vitamine B6, B12, du magnésium, et on voit l'utilisation de seringues. Et c'est là que ces cyclistes apprennent, par exemple, que s'ils veulent rester en bonne santé, faire attention à la santé, eh bien, c'est mieux de prendre les produits par seringue, parce que ça permet de mettre moins de produits et donc de moins perturber l'équilibre du corps plutôt que de l'ingérer. Un certain nombre vont continuer à monter en niveau, donc on s'entraîne 3, 4, 5 fois par semaine, et certains vont être repérés, et du jour au lendemain, eh bien, on peut vous dire, on fait un bon résultat ou deux bons résultats, et puis il y a des directeurs qui viennent vous voir et qui vous disent, je veux que tu signes. Et finalement, en quelques jours, eh bien, on passe d'un statut amateur à un statut donc professionnel, et là, dans les discours, mes cyclistes me disent, là, on passe dans un autre monde. On passe vers le monde extraordinaire. Et donc, on a parlé du terme de bulle. On va aller dans une sorte de bulle, une bulle de haut niveau, une bulle déconnectée. C'est-à-dire qu'effectivement, on se déplace avec tout le monde, on rencontre les gens, vous et moi. Mais cette vie, cette nouvelle vie, c'est 200 jours à peu près où on est tout le temps avec les mêmes cyclistes. On se déplace à Dunkerque, on se déplace à Marseille. On se retrouve tous ensemble. Et finalement, on est une sorte de petite famille. Et donc là, on est là pour faire le métier. On n'est pas forcément là pour gagner. Là, on est là pour faire le métier, pour aider le leader. Et donc, au contact des autres, eh bien, on va apprendre à faire le métier. Alors, on apprend tactiquement, techniquement, à s'insérer. Et là, on vous parle de plus en plus de votre santé. Est-ce que tu fais attention à ta santé? Qu'est-ce que tu fais? Parfois, on peut proposer un médecin d'équipe. Et on lui dit, est-ce que tu veux voir un médecin, un bon médecin? Et là, on s'aperçoit que poussé par les pairs et puis aussi donc les différents cadres sportifs, eh bien, il faut aller voir un peu. Il va falloir voir un nouveau type de médecin qui est un médecin. Alors parfois c'est le même, hein, ça peut être le médecin du sport, mais surtout un physiologiste de l'effort. C'est-à-dire qu'il va voir ta santé. C'est-à-dire qu'il va te faire aller sur un tapis, qui va te faire aller sur une bicyclette et qui va en retirer des chiffres, qui va te faire des prises de sang et qui va te donner un certain nombre de chiffres qui va permettre de voir si tu es en bonne ou en mauvaise santé. Et les cyclistes me disent, finalement, c'est finalement voir ce que j'ai dans le moteur. C'est-à-dire que ma santé, c'est surtout, est-ce que je suis apte à faire de la performance? Et là, on commence à voir, pour rester en bonne santé, l'apparition de produits d'hormones stéroïdes, donc cortisone, stéroïdes anabolisants, et qui vont réguler la fatigue. Et c'est ainsi que, pour ces cyclistes, ça n'est pas du dopage. C'est réguler la fatigue. C'est-à-dire que si on prend des produits, un tel me dit, ça permet de respecter l'échelle de valeur. Donc on est toujours dans l'éthique sportive, et ça permet de rester en bonne santé. Si vous saviez comme c'est dur de faire des centaines, des milliers de kilomètres, on est extrêmement fatigué, et donc on va prendre, pour continuer à faire le métier, on va prendre des hormones stéroïdes. Certains, quelques-uns, Alors il y en a certains qui m'ont dit, eh bien, j'ai eu un grave accident, j'ai failli mourir. Un autre qui me dit, ben, à un moment je me suis dit, mais pourquoi me faire des piqûres pour faire le métier alors que je peux me faire des piqûres pour gagner. Donc à un moment, il y a un élément dans leur vie qui fait qu'ils vont décider de devenir un champion. C'est-à-dire plus simplement faire le métier, mais enfin de gagner. Et on s'aperçoit que finalement, ils reviennent dans le sport, c'est-à-dire qu'ils vont être là pour gagner, non pas simplement mettre leur force de travail au service du leader. Et donc, pour gagner, eh bien, on s'aperçoit qu'ils vont aller voir, ils vont se déplacer pour aller voir un médecin biotechnologiste. Ils vont aller voir des médecins biotechnologistes, et là, on s'aperçoit qu'il y a une déstructuration au sein de l'équipe. C'est-à-dire qu'avant, on se passe les produits, on ne se dope pas. Tu as besoin de la cortisone, d'anabolisant, bah tiens, tu t'en passes, tu m'en repasseras, comme certains font ça avec des cigarettes, enfin moins maintenant. Et là, ce n'est pas la même chose. Parce que ces médecins, il y en a partout en France qu'on peut aller voir, pas forcément, enfin des médecins en général, mais là, ces médecins biotechnologistes, il y en a peu. Et ce qui fait qu'on est obligé de s'extraire de l'équipe pour aller les voir. Et c'est comme ça que j'ai eu accès à un plan d'entraînement où on voit marqué à gauche le nombre de pulsations. Par exemple, lundi, tu dois courir entre 145 et 155 sur tel type de braquet pendant tant d'heures. Et puis ensuite, il y a marqué une injection d'hormones de croissance à 19h. Et donc, tout est réintégré. C'est-à-dire que les produits viennent se coupler avec la planification de l'entraînement. Mais pour ça, il faut aller voir ces entraîneurs. Ces médecins entraîneurs qui sont fascinés par les sportifs de haut niveau, et ils vont leur proposer de l'EPO, de l'hormone de croissance. Et là, on s'aperçoit que les cyclistes disent, c'est au début des années 1990 que le dopage est rentré dans notre sport. Donc c'est-à-dire que le dopage existait comme éventuellement un problème de santé, mais pour eux, il est rentré dans le sens d'une atteinte à l'éthique sportive, dans le sens où, premièrement, l'EPO et l'hormone de croissance, c'est pas un produit qu'on prête. On le garde pour soi, donc pour être meilleur. Donc il y a vraiment une coupure au niveau du lien social. C'est également un produit également qui permet à un moyen de devenir un bon. Et donc finalement, ce qui fait que ces produits ne régulent plus le travail, mais à la limite, bon, évidemment c'est un peu exagéré, en ne s'entraînant pas, eh bien, on change au niveau biologique et on devient bien meilleur. Et c'est là que les cyclistes finalement disent... C'est le dopage, ce sont ces produits, c'est pas leur mode de croissance, c'est pas la cortisone ou les anabolisants. Et puis, à un moment, eh bien, parce qu'on n'a pas de résultat, il y a une coupure, le contrat de travail s'arrête, et là, pareil, du jour au lendemain, on retombe dans le monde ordinaire. C'est-à-dire qu'on perd tous ses appuis. Finalement, toute la vie qu'on avait conçue, les amis, les points d'appui, se lever à telle heure, tel jour, aller à tel entraînement, eh bien, tout ça n'existe plus. On revient à un homme ordinaire. Et alors certains ont préparé leur reconversion, surtout maintenant, ça se fait quand même beaucoup plus. Un certain nombre ne l'ont pas fait, donc il y en a certains qui vont ouvrir un magasin de cycle, travailler avec le beau-père. Et j'en ai rencontré un certain nombre qui... finalement me disait mais je n'avais plus rien à faire, je m'ennuyais, et donc alors que avant ça je ne l'ai pas, enfin si c'est marqué, on utilisait des produits, des amphétamines et des peaux belges de temps en temps, et là je m'aperçois que les produits sont pris de temps en temps, c'est-à-dire que les amphétamines, les peaux belges sont pris surtout fin juillet en août. Après le Tour de France, pour décompenser, on fait la fête, on se retrouve au critérium qui ne sont pas des compétitions, c'est des shows. De toute façon, tout est déjà mis, on sait qui sera le premier, le deuxième, le troisième. Et ces produits sont également beaucoup utilisés en novembre et en décembre. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'accrochage pour la majorité, c'est un usage festif. Par contre, j'ai un certain nombre qui ont basculé en revenant dans le monde ordinaire, qui perdent les appuis et qui vont utiliser de plus en plus des amphétamines et des peaux belges et qui vont tomber ce qu'on peut appeler donc dans l'addiction. Et donc, effectivement, je termine en disant, eh bien, on retourne vers le généraliste ou pourquoi pas un spécialiste. Alors, finalement, en tant que sociologue, eh bien, je dirais que pour moi, si on regarde bien le début de ce qu'on appelle du processus pharmacologique qui commence donc dans la deuxième phase, la carrière professionnelle, et on s'aperçoit comment finalement, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que tous les sportifs que j'ai rencontrés ont les mêmes valeurs que nous. Ils sont pour la santé, ils sont contre la tricherie, mais les normes qu'ils utilisent pour définir ces valeurs ne sont pas les mêmes, selon que l'on soit dans le monde extraordinaire du haut niveau ou selon que l'on soit dans le monde ordinaire. Je vous remercie.
Merci.
Et pour ceux qui veulent en savoir plus... Il vient juste de paraître aujourd'hui.
Je crois que c'est un témoignage qui ne manquera pas de soulever de nombreuses questions. Le docteur Daniel Ardelin, donc médecin du sport, comme je le disais tout à l'heure, au Centre national d'entraînement d'altitude de Formeux, qui donc est désormais une structure attachée au CREPS de Montpellier, depuis peu, oui. Et qui va donc évoquer la situation des adolescents.
Voilà, je vais vous...
Tous sports confondus,
parler un peu, voilà, tous sports confondus des adolescents pour les sports à Font-Romeu.
Peut-être resituer, alors, je trouve, Font-Romeu.
Bien sûr, je vais resituer un peu tout ça, puisque ça fait partie du contexte, hein, de resituer, mais je remette mes idées au clair, parce que les interventions de ce matin m'apprennent énormément de choses sur le travail que je fais au quotidien. Je voulais remercier l'organisation de m'avoir invité à parler de mon expérience, puisque je suis le médecin en charge depuis presque 15 ans maintenant des sportifs qui viennent à Font-Romeu, au centre d'entraînement en altitude. Ces sportifs qui viennent de tous horizons profitent d'un établissement qui a été créé en 1968 pour les Jeux de Mexico, pour préparer les sportifs français à des Jeux Olympiques en altitude. C'est donc par sa situation dans les Pyrénées en altitude à 1800 mètres que le centre a été créé. Par aussi non seulement son altitude, mais aussi sa latitude, puisqu'on est au sud, hein, on est plus au sud que Bastia, presque à la latitude d'Ajaccio, ce qui induit un climat plutôt favorable. Mais tout cet ensemble de caractéristiques géographiques fait qu'on est très isolé. Donc moi, je ne vais pas vous parler de tous les sportifs qui viennent, je vais vous parler de nos jeunes qui sont en section sport-études, maintenant Pôle Espoir ou Pôle France, puisque l'appellation sport-études est dépassée. Ce sont donc des jeunes qui sont scolarisés sur place, à l'année, et qui profitent de ce site, une véritable cité pré-olympique, qui présente un ensemble d'équipements sportifs hors du commun, qu'il ne serait, je pense, plus possible maintenant de construire. Ça demande des moyens qu'on ne met plus en œuvre, globalement sur un seul site. Quand on parle donc de ce site, il faut penser à l'isolement. Je vous ai dit 1850 mètres d'altitude, des moyens d'accès un peu difficiles, donc un isolement bien sûr géographique, mais aussi un isolement que j'appelle social et culturel, en prenant le mot culturel dans son sens le plus large. Bon, évidemment, c'est un village de 2000 habitants, il n'y a pas énormément de moyens. Quand je dis moyens culturels, on pense au plus classique, au cinéma, au théâtre, mais je pense aussi aux échanges que peut avoir un médecin comme je suis ou un entraîneur en discutant avec ses pairs pour progresser et avoir un peu d'informations nouvelles. À la suite des Jeux Olympiques, donc, l'établissement a continué à recevoir des sportifs, mais surtout un établissement scolaire qu'on appelait climatique et sportif a vu le jour. Cet établissement comporte donc un collège, un lycée, et depuis une dizaine d'années, s'y est greffé l'université Staps de Perpignan. Il a mis son antenne pour les trois premières années. Ce qui nous situe la population concernée entre collège et Staps dans la tranche de l'adolescence au sens large, hein, puisque maintenant on élargit un peu l'âge de l'adolescence. Donc voilà nos jeunes situés à Font-Romeu, environ 70 élèves en Pôle Espoir ou en Pôle France. Donc on a expliqué que c'était ces structures de haut niveau. Ils sont donc recrutés sur toute la France, y compris l'outre-mer. Ils se retrouvent là-haut pour passer l'année. La plupart du temps, ils y restent le week-end. Les vacances pour le haut niveau, c'est souvent des stages ou des compétitions sportives. Voilà un peu le cadre où ils se trouvent, dans un établissement dont la vie est marquée par les rythmes sportifs, avec en particulier des aménagements d'horaires scolaires pour qu'il y ait deux créneaux d'entraînement de libre, 10h midi, 5h 7h, tous les jours. L'établissement va donc fonctionner en vase clos, puisqu'il est capable de mettre à disposition des sportifs en un lieu unique, la scolarité, l'hébergement et l'entraînement. Et puis, il n'y a pas grand-chose autour. Enfin, il y a une nature qui est formidable. Je vous ai dispensé du diaporama PowerPoint, d'abord parce que j'ai chaque fois des problèmes avec les PowerPoint, et deuxièmement, parce que j'aurais mis des images qui auraient fait que vous n'auriez pas grand-chose à écouter. Il y avait tellement de belles choses. Bon, le cadre est superbe, mais il n'y a pas grand-chose autour. Les avantages du système. Alors, je vais vous parler un peu d'avantages. Je vais vous parler un peu d'avantages. Et puis, comme on l'a évoqué plusieurs fois, les avantages peuvent devenir des inconvénients. Premier avantage, c'est l'unité de lieu. Et donc l'absence totale de perte de temps et aussi de perte d'énergie, liés aux trajets pluricotidiens vers les sites d'entraînement. C'est quelque chose qui semble assez important. Je suis parallèlement médecin des équipes de France d'aviron. Là, je sors d'un stage hier avec les juniors à Souston, où ils se regroupent, ils se retrouvent. Mais dans pas mal de sports, les lieux d'entraînement sont loin du lieu d'hébergement. Retrouver son équipier pour les sports collectifs ou des sports à plusieurs demande de longs trajets. Tout cela n'existe pas à Font-Romeu, où il y a tout sur place. Deuxième avantage, la qualité et la diversité des équipements qui sont directement accessibles sur un même site. Pour tous les sports, ça peut être intéressant d'avoir un lieu d'échauffement, une salle de musculation, un lieu de récupération sur le même endroit. Et puis aussi pour les sports multiples, comme par exemple à Font-Romeu, le triathlon, le pentathlon moderne, le biathlon. Donc je vous rappelle, pour prendre l'exemple le plus flagrant, le pentathlon moderne, c'est l'association de course à pied, de natation, d'équitation, de tir, d'escrime. Il n'est pas toujours évident d'avoir sur un même site tous les équipements. Donc voilà ce qui facilite grandement la pratique du sport. Autre point intéressant, c'est la sensibilisation des personnes qui travaillent sur le site aux problématiques des sportifs, avec une connaissance et donc souvent une reconnaissance de l'effort et du sacrifice. Les entraîneurs, bien sûr, mais aussi le personnel enseignant ou le service médical sont au contact des sportifs et arrivent à comprendre un petit peu toutes ces problématiques. La solidarité entre sportifs. Alors, il y a pas mal de points que j'évoque qui se rapprochent à ce que l'on vient d'entendre sur l'idéologie, l'idéologie qui dicte un peu tout ce fonctionnement. D'ailleurs, j'ai pris un peu peur tout à l'heure en entendant parler de l'idéologie, puisque je me rends compte, chaque fois que je réfléchis à ces thèmes, que je fais partie de la bulle sportive. Je pensais pouvoir vous la présenter de l'extérieur, mais je me rends compte que je suis dedans. Et puis j'ai entendu ce qui s'entend peut-être, mais que l'idéologie est un appauvrisseur verbal. Donc vous m'excuserez de ne pas avoir toutes les qualités oratoires que peuvent avoir les psychologues que j'entends et les sociologues. Oui, il va falloir faire des efforts parce qu'en tant que médecin de terrain, je prends beaucoup de temps dans l'action et pas tellement, je ne vais pas dire dans la réflexion, mais dans l'élaboration des idées. Donc la solidarité entre sportifs, c'est un avantage aussi d'être dans un milieu, je ne vais pas dire exclusivement sportif, mais à dominante sportive. Elle aide beaucoup, cette solidarité, surtout dans une même discipline, car on ne va pas échapper aux rivalités de groupe, voire aux rivalités de culture. Donc les idéologies, il y a une idéologie globale du sport, mais je pense qu'il y a des sous-idéologies, je ne sais pas si le terme est approprié, mais chacun a sa culture. Que ce soit la culture liée au sport, on a à Font-Romeu un pôle espoir natation qui n'a pas du tout la même façon de penser au sport que le pôle espoir parapente. Je prends ces deux extrêmes, puisqu'il y a des modalités de pensée et de fonctionnement très différentes, et des sensations ou une prise de plaisir dans le sport qui doit être différente aussi. Mais c'est pareil aussi, différence de culture au niveau peut-être des origines sociales. Je vous parlais de pentathlon moderne, qui ne va pas recruter dans les mêmes milieux que la lutte, et donc des valeurs différentes. Mais globalement, une solidarité, donc une idéologie semblable. L'émulation par l'exemple, autre avantage. Je vous parlerai des inconvénients après, vous inquiétez pas, il y en a pas mal. Mais les avantages quand même, l'émulation par l'exemple, puisque dans ce centre, les jeunes côtoient fréquemment des sportifs du plus haut niveau international. Et pour eux, ça reste un symbole de réussite. L'espace qui est bien borné, alors quand je dis bien borné, c'est au sens propre et au sens figuré parfois, mais bon, un espace bien borné qui laisse peu de place à l'intrusion des dérives du sport, du moins dans la tranche d'âge où on se trouve là, les dérives du sport, on a parlé de conduite dopante ou prise de toxique, mais aussi l'hypermédiatisation, donc on est relativement protégé sur notre site. Enfin, dans certains cas, une détection rapide des modifications ou des troubles comportementaux, entre autres grâce à une présence médicale quasi permanente sur le site, tout en sachant que, et on l'a évoqué sur ce dernier point, que le manque de recul et l'objectivité, le manque d'objectivité aussi s'installe au fur et à mesure, puisque je vous l'ai dit, on fait partie de la bulle sportive et on se trouve happé par toute l'idéologie. Revenons sur ce mot que je vais maintenant m'approprier dans mes discours et qui colle tout à fait à la réalité. Merci bien. Donc, en tout état de cause, tout cela contribue à une optimisation de l'entraînement, hein, un terme qui est souvent utilisé, l'optimisation de la performance, l'optimisation de l'entraînement. Optimiser l'entraînement, c'est essayer d'être le plus efficace possible dans le moins de temps possible, puisque c'est une condition maintenant indispensable pour atteindre le haut niveau. Le temps est compté, là on le voit nous chez nos jeunes, hein, il y a des impératifs sportifs importants, mais aussi des impératifs scolaires. Ça reste, c'est pour ça que moi je garde souvent le terme de sport-études dans mes exposés, parce que la partie études reste importante, et je pense qu'en France, il y a des efforts qui sont faits au niveau des fédérations pour que les études restent importantes, mais le problème c'est de trouver le temps de s'entraîner, puisque j'aime bien évoquer ce petit exemple, l'entraînement a énormément changé depuis 68 où le centre a été créé. Alors j'ai retrouvé dans des archives, pas les miennes parce que j'étais pas bien vieux, mais un numéro de l'Express de mai 69, c'est-à-dire à peu près la même période, où le médecin de l'INS, l'Institut National des Sports, qui est devenu INSEP maintenant, expliquait que, d'une façon générale, je vous lis, « toute exagération de la pratique d'un sport est nocive. L'adolescent qui fait 2 heures de piscine 4 fois par semaine est vite surmené, épuisé, amaigri. » Donc là, on a été à 2 heures de piscine 4 fois par semaine. Alors, 40 ans plus tard, où est-ce qu'on en est ? On en est, pour le plus haut niveau, à des nageurs qui font 25 à 30 heures hebdomadaires d'entraînement, dont au moins les 3/4 dans l'eau, pour nager chaque jour de 10 à 16 km. Là-dessus se greffe donc la scolarité quasi normale, avec des horaires adaptés, et pour certains, une réussite à la fois scolaire et sportive. Passons maintenant un peu aux inconvénients du système. Donc on l'a vu, peu de temps mort, peu de loisirs, pas beaucoup de moments d'échange. Alors, j'ai encore profité des discours précédents pour voir que dans l'idéologie, effectivement, les moments d'échange, je pensais qu'ils manquaient, mais peut-être qu'ils ne sont pas recherchés. L'entraînement et la scolarité empiètent même parfois sur les temps de repos et aussi sur les temps de repas. Donc il n'est pas rare de voir, après un entraînement qui a un peu duré, hein, les créneaux étant 10, 12 et 5h, 7h l'après-midi, de voir des sportifs se précipiter, engloutir un repas en 5 minutes et repartir après en cours ou en études, avec les répercussions qu'on peut penser sur déjà le manque de plaisir et de convivialité qu'il devrait y avoir dans un repas, sur les troubles digestifs ou les troubles... Donc, les problèmes qu'il peut y avoir au niveau digestif ou au niveau de l'équilibre des repas, et voir la facilitation de certains troubles du comportement alimentaire qui se trouvent un petit peu justifiés par le fait qu'il n'y a pas le temps, et c'est pas la peine tellement de manger. Certains diététiciens qui sont venus à Font-Romeu voir un peu ont pensé qu'il y avait parfois plus du remplissage que de l'alimentation. Le sportif dit « il faut que je prenne mes calories, il faut que je mange », il mange en 5 minutes, il s'en va. Autre inconvénient, l'interface réduite avec le monde extérieur, qui conduit à un certain déphasage avec les évolutions actuelles de la société adolescente. L'interface est faible, même si dans certaines classes il n'y a que des sportifs, dans d'autres classes elles sont mixtes, mais les horaires sont tellement serrés que les jeunes ne voient pas tellement ce qui se passe autour de leur pôle espoir. Alors cette interface réduite, elle a parfois un effet protecteur vis-à-vis des dérives, mais assez souvent, quand même, elle pose problème à la fin du cursus, que ce soit le sportif qui a terminé son cursus, on se limite au bac ou aux années du STAPS, le sportif qui sort du cursus va se trouver confronté à une autre réalité, moins protectrice, et là, il peut y avoir des problèmes, les problèmes étant d'autant plus fréquents que le sportif, quelquefois, sort sur ce qu'on appelle un échec, hein, je mets avec les doigts là les guillemets, mais le terme échec, quelquefois, le sportif sort de la filière, et là, se retrouve déjà en situation d'échec et en plus confronté à des réalités qu'il n'avait pas appris à appréhender. L'éloignement familial prolongé, il est parfois une motivation du sportif ou même quelquefois des parents pour venir s'entraîner à Font-Romeu. Cette séparation des parents qui est considérée pour certains comme un élément constitutif de l'adolescence, était néanmoins encadré jusqu'à il y a quelques années par des familles d'accueil, des adultes référents sur place qui pouvaient prendre en charge le sportif pendant les week-ends ou quand il y avait des soucis. l'évolution des choses, de la disponibilité des gens, de l'implication des adultes et du faible nombre potentiel de familles d'accueil sur fonds romeux et en environnement a fait que le système a disparu complètement. Donc le sportif reste dans la bulle sportive, hein, puisque c'était le terme consacré, reste dans sa bulle sportive quasiment en permanence. C'est maintenant l'entraîneur, les enseignants, les maîtres d'internat ou les soignants qui se partagent le rôle d'adulte référent ou d'autorité de substitution. La vie de l'adolescent sportif en Pôle Espoir est donc planifiée à tout moment, ce qui diminue l'acquisition de l'autonomie en ne laissant que peu de place à la prise d'initiative. Et il reste toujours étonnant de voir des entraîneurs demander à leurs jeunes, puisque c'est assez courant, leur demander d'être plus autonomes, de prendre plus de responsabilités, alors que le système lui-même a tout borné, a tout imposé dans leurs emplois du temps, quelquefois même dans leur prospective d'avenir, quelquefois même dans leur vie sentimentale. Un exemple cette année d'une jeune sportive, un petit peu timide et puis bien rangée, qui écoute bien son entraîneur, tout comme il faut. Là, je mets les guillemets avec les doigts, comme on fait souvent, hein. Prenez au second degré, mais tout comme il faut, qui part en vacances, des vacances un peu courtes, parce qu'il y avait des stages, des compétitions. Elle revient au mois de septembre, elle rentre en terminale, un peu plus délurée, pareil avec les guillemets, parce que c'était très relatif. Elle flirte avec un sportif d'une autre section, qui est un peu moins concerné par la performance et l'entraînement. Donc là, elle se dissipe. Elle a eu droit à des, on va pas dire des reproches, mais on lui a réexpliqué quels étaient ses objectifs, est-ce que c'était bien raisonnable, avec insistance. Ça a été très efficace, puisque le flirt s'est rapidement interrompu. Je mets des guillemets, hein, j'espère que vous prendrez aussi. 9 mois plus tard, il se trouve que c'est 9 mois plus tard, donc c'est pas ce que vous pensez. 9 mois plus tard... Grand bonheur, oui, j'ai mis 9 mois exprès, mais ça tombait 9 mois plus tard. Elle est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Pékin. Est-ce que c'est une réussite ou pas une réussite, hein? C'est quand même l'objectif, elle fait du haut niveau. Donc voilà, ça pose un peu la question de l'autonomisation et de l'assujettissement à l'entraîneur, aux entraîneurs. Et donc, cette jeune fille-là, a-t-on fait, alors quand je dis « on », je parle de la collectivité des adultes de l'établissement, a-t-on fait ce qu'il fallait ou pas ce qu'il fallait ? La question reste posée. Alors, dans quelques rares cas, il m'est arrivé quand même d'avoir à inciter des jeunes sportifs à la rébellion, parce que les sentant en détresse totale, se sentant démunis face à l'emprise du système, de l'entraîneur ou du système, il m'a été parfois utile de les pousser justement à cette rébellion pour qu'ils puissent prendre possession un peu de leur vécu et faire leur travail de subjectivation, hein, puisque c'est le terme que j'ai découvert récemment. Je termine. Et donc, pour finir, bien sûr, le choix de venir à Font-Romeu, c'est le choix initialement du sportif de venir s'entraîner dans ce système qu'il découvre quelquefois différent de ce qu'il pensait, basé sur un système de valeurs sur la performance physique, sur l'aspect du corps, et dont ils ne sont pas toujours capables de se sortir tout seuls. Donc en conclusion, la bulle sportive de Font-Romeu, elle est comme une bulle, elle est protectrice, mais fragile. Elle offre aux plus forts, les plus forts physiquement, mais aussi psychiquement, toutes les conditions d'accéder à leur plus haut niveau de performance sportive. Et dans le contexte du sport, dans l'idéologie, c'est un des buts à atteindre. Par contre, pour les autres, pour les plus vulnérables, les plus faibles, c'est encore là une bulle qui, quand elle éclate, les laisse tomber, et parfois avec aucun tapis pour les recevoir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Juste un petit point, si j'ai très peu parlé de suivi psychologique, c'est parce que c'est quelque chose de compliqué à mettre en œuvre. C'est en train de se mettre en place, c'est un autre débat, mais sachez que la loi, enfin c'est un décret, je ne sais pas si c'est un décret, enfin le texte de juin 2006 est l'arrêté, c'est un arrêté, est en train de se mettre en place progressivement. Chaque fédération ou chaque pôle fait à sa façon. Par contre, c'est une grande aide quand même pour les médecins du sport de savoir qu'on peut s'appuyer sur ce texte pour avoir accès à des évaluations psychologiques neutre et bienveillante, comme c'est le terme, mais qui nous apporte énormément. Merci de votre attention.
Alors, on a 40 minutes pour débattre donc avec les trois intervenants. Je rappelle le thème, de l'élitisme à la marginalité ou de la marginalité à l'élitisme. Alors, si j'ai bien compris le sens de vos interventions, ce passage de l'un à l'autre, il pouvait être d'ordre idéologique, peut-être chimique, sûrement environnemental, même si on n'a pas eu droit aux diapos nous montrant les belles montagnes de Font-Romeu, normatif aussi, effectivement, mais sans doute vous aurez l'occasion d'y revenir, puisque vous l'avez intitulé votre intervention sur le choc des normes. Voilà, en résumé, très succinctement, les thèmes qui viennent d'être abordés. Et désormais, vous avez la parole pour interroger l'un ou l'autre de ces conférenciers. Qui se lance le premier ou la première? Le coureur cycliste. À toi la parole. Présente-toi, comme ça tout le monde saura pourquoi je dis le coureur cycliste.
Christophe Basson, ancien coureur cycliste et maintenant conseiller réglementation à la direction régionale jeunesse et sport à Bordeaux. J'avais une question, peut-être plus précisément à M. Brissonneau. Comment considérez-vous, je dirais, l'intégration, je dirais, d'un staff médical, justement, dans le sport de haut niveau, étant donné que si on reprend un peu votre démonstration, on se rend bien compte qu'au départ, l'athlète n'a pas vraiment de soucis sur le plan de santé, ne s'en préoccupe pas. Et c'est justement parce qu'on le rapproche d'un staff médical qu'il peut y avoir justement ces déviances, je dirais, vers l'utilisation de substances interdites, par exemple.
Alors, à partir de la thèse que j'ai faite en 2003, j'ai utilisé une démarche historique. Et en utilisant cette démarche historique, j'ai permis de déconstruire quelque chose qui semble normal. C'est-à-dire que, avant, je travaillais sur l'athlétisme. Et pour comprendre la question de l'athlétisme, de l'amateurisme au professionnalisme, j'ai été obligé de travailler sur la question du dopage parce que tout le monde me parlait de ça. J'ai rencontré des sportifs de haut niveau des années 60, 70, 80, 90. Et je me suis aperçu dans ce travail historique que le médecin est conçu comme une anormalité. Dans les années 60, 70, les sportifs, et donc qui étaient actifs à ce moment-là, me disaient, mais nous, on faisait du sport, on était en bonne santé, on n'avait pas besoin d'aller voir un médecin. On avait un petit claquage, on avait une petite tendinite, on mettait des feuilles de chou, on s'arrêtait, et puis voilà. Et donc, finalement, voir le médecin, c'est qu'on était en mauvaise santé. Et on s'aperçoit que... Et donc, le médecin qu'on voit, c'est un médecin clinicien, c'est-à-dire que c'est un médecin qu'on voit alors que l'on est malade. Alors qu'à la fin des années 70... On voit un changement, notamment à l'INSEP, où le ministère de la Jeunesse et des Sports va imposer un nouveau type de médecine, qui est la médecine des chercheurs, des physiologistes de l'effort. Ce sont des médecins qu'on va voir alors qu'on n'est pas encore malade. Des médecins qu'on va aller voir pour ne pas être malade. Donc ce que je voudrais montrer, et finalement ce que je dépeins finalement dans ma thèse, c'est une thèse sur le dopage, mais c'est une thèse sur le sport de haut niveau. Et ce que je montre finalement, c'est un rapprochement de la science dans un monde d'empirisme. Et les premiers scientifiques qui vont arriver, ce sont les médecins. Mais ces médecins sont très mal vus par les entraîneurs qui parlent sur le terrain, qui échangent. Et ce que je m'aperçois, c'est que finalement, ces médecins physiologistes de l'effort vont apprendre aux sportifs à mieux s'entraîner. C'est quoi mieux s'entraîner? C'est VO2 max, c'est toutes ces choses-là. Ils vont leur dire, vous ne nous aimez pas, c'est vrai, mais si vous vous laissez observer, eh bien on va vous explorer et on va vous donner des méthodes d'entraînement. Et on s'aperçoit que les Français ont progressé au niveau des performances. Ils n'ont pas forcément été meilleurs parce que les pays de l'Est avaient autre chose. Mais je m'aperçois qu'également, alors qu'il y a de plus en plus de médical, il y a de plus en plus de connaissances scientifiques, bon, si on s'entraîne plus, des matériaux plus scientifiques, eh bien je vois dans les discours de mes sportifs de la douleur. Je vois de plus en plus de blessures, les sportifs sont de plus en plus blessés, vont de plus en plus voir le médecin. Et donc finalement, ce que je dépeins dans ma thèse, c'est une médicalisation du sport de haut niveau. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'alors, par exemple, je vais prendre le cas du cyclisme. Le cas du cyclisme, leur mode de croissance arrive dans les années 90. Il faut savoir que ce produit est déjà utilisé en athlétisme dans les années 80, où les médecins sont déjà présents. Et donc, je ne dis pas que les médecins vont doper, mais les médecins, en se rapprochant du sport de haut niveau, vont leur permettre d'acquérir, de voir qu'il y a des connaissances sur le marché. Et c'est comme ça que je me suis aperçu de façon paradoxale, c'est qu'un certain nombre de sportifs de haut niveau, non, pas simplement en cyclisme, mais dans d'autres sports, m'ont dit où est-ce qu'on a appris le plus sur le dopage ? C'est en allant sur les sites de l'Agence mondiale antidopage, du CPLD, et il y en a un qui m'a fait un tableau en croix pour voir, voilà, toi, le PO, il y a ça, tu es pris à temps, donc tu prends ça le lundi, le mercredi. Ils vont truquer les sites universitaires de médecine, et certains m'ont dit, ce sont dans les colloques antidopage qu'ils ont appris le plus. Moi, j'ai assisté à un colloque antidopage où quelqu'un, un grand scientifique, a expliqué comment les cyclistes se dopaient, et devant, il y avait deux champions du monde d'athlétisme, et il y avait une dizaine de champions de France où ils ont pris des notes. Voilà. Et pour terminer, où est-ce qu'on apprend le plus dans les colloques ? C'est au moment du café, où c'est sympathique, et où les sportifs, justement, sont en connexion avec le corps médical. Et il y en a un, il m'a dit, c'est un colloque antidopage, où j'ai appris que finalement, au lieu de mettre de l'argent pour aller m'entraîner à fond romeux, c'était plus intéressant de prendre de l'EPO, ça me revenait moins cher. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais pour comprendre, finalement, la question de la médicalisation est considérée comme quelque chose de normal. Et donc, ce que je voudrais montrer, c'est que en regardant derrière nous, c'était une anormalité qui s'est construite comme une normalité. Et les sportifs, maintenant, demandent la présence du corps médical.
Docteur ? Oui, moi, donc tout à l'heure, vous disiez que le sportif qui prend des hormones, des anabolisants, il se disait, je ne me dope pas, c'est pas du dopage. Moi, je commence à avoir du mal de nos jours à penser que le sportif ne sait pas ce qu'il fait. Et celui qui va trafiquer un site, qui va chercher des infos, qui va savoir comment on peut faire le mieux possible, ça me dérange toujours. D'accord, peut-être que ça n'a pas la même importance pour lui que pour nous ou pour le public, mais j'ai l'impression quand même qu'il sait très bien ce qu'il fait quand même.
Oui, alors justement, bon, évidemment, c'est un travail qui est extrêmement long, qui est extrêmement riche, évidemment, il faut du temps pour en parler. Mais quand je suis allé dans le cyclisme à partir de 1997, puisque je voyais déjà des choses qui ont satilité avant l'affaire Festina, moi j'ai vu d'abord des cyclistes, mais aussi un peu des... Justement, je vais faire la comparaison avec l'athlétisme. Moi, les cyclistes, jusqu'en 2003, mais m'en parlaient sur le ton de la rigolade, t'es un vilain sociologue, je vais te raconter, c'était pas un problème. Et il y en a qui m'ont dit, j'ai même certains de mes étudiants à la fac de Paris 5, qui m'ont dit, mais... Ben, entre nous, on ne parle pas de dopage, on parle de pharmacopée. Est-ce que vous parlez avec les autres de votre nuit, de ce que vous mangez ? Pour nous, la pharmacopée, on n'en parle pas avec les autres parce qu'on sait que tout le monde en prend. C'est une normalité. Ils l'ont complètement intégré. Et ce que je montre donc dans ces carrières, c'est que finalement, c'est pas « je vais me doper », c'est que finalement, c'est le fruit d'un long processus où on incorpore des valeurs qui sont relativement ambivalentes. Et donc, la différence avec les gens que j'ai vus en athlétisme qui se sont dopés, c'est qu'ils le vivent quand même beaucoup plus mal. Ils le vivent plus mal parce qu'ils ont quand même moins de ressources par le haut niveau. Donc, ils travaillent, ils ont leurs femmes qui travaillent dans le monde ordinaire. Et ils s'aperçoivent, et il y a des tensions dans l'athlétisme, où ils me disent, en même temps, ils perçoivent que dans le haut niveau, c'est normal de prendre des produits pharmaceutiques, mais ils s'aperçoivent quand même qu'à côté, ils sont... Mais qu'est-ce qu'on nous veut ? Après Festina en 2000, le docteur Condemine-Piron disait, mais mes sportifs, ils disent, mes cyclistes de Festina, après l'affaire, lui disaient, mais pourquoi on nous en veut ? Ils n'avaient pas compris. En même temps, ils imaginent bien que ce n'est pas bien, mais pourquoi on nous empêche de le faire ? C'était le discours qui était tenu, hein, je n'ai pas dit je le partage.
D'accord, non, c'était juste le fait que je pense que le sportif est plus conscient... de l'importance de son geste que ce qu'on pense. Sinon, sur l'évolution de la carrière pharmacologique, là, moi, j'ai vu, effectivement, je suis médecin du sport, et j'ai chaque semaine des demandes du niveau que vous avez indiqué, qui est tout à fait celui-là, qui est pas seulement de soigner, qui est de la vitamine B12, du fer, parce qu'en altitude, pour faire des globules, il faut, et si possible, en injectable, parce que le sportif a besoin de ça. Alors moi, j'ai la chance d'être salarié du ministère des Sports et de défendre une idéologie. Quitte à paraître ringard, ils ont droit à aucune injection, sauf s'ils ont un état de maladie. Et à ce moment-là, ils ont des problèmes pour s'entraîner. Mais effectivement, l'évolution me semble tout à fait plausible. Mais c'était sur la responsabilité du sportif, quand même.
Enfin, par rapport à la réflexion de Daniel sur les sportifs, ce qu'ils font, oui, ils savent très bien ce qu'ils font, on est bien d'accord, mais... Mais je pense qu'aussi qu'il y a le problème aussi que tu décris bien d'ailleurs, Christophe, dans ta thèse, hein, c'est de non-acceptation des normes qui sont imposées, notamment des règles antidopage. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne se reconnaissent pas comme sportifs dopés, et en particulier les cyclistes. Et par rapport à l'athlétisme, ils n'utilisent pas les produits de la même façon. Un cycliste qui fait de l'endurance, il ne va pas utiliser les corticos ou les anabos de la même façon qu'un sprinteur de 100 mètres, parce que le but n'est pas tellement d'augmenter la masse musculaire, mais plus de réparer, les dégâts, faits par l'entraînement. Donc c'est juste pour compléter la réflexion.
On ne prend pas des produits pour être plus performant. C'est pour gommer la fatigue et la douleur. C'est pas pour être plus performant.
On est bien d'accord. Le PO étant à part, parce qu'effectivement, ça révolutionne les valeurs. Et à ce moment-là, les valeurs normales sont changées. C'est-à-dire que quand on voit d'un seul coup quelqu'un qui passait pas une bosse, il vous passe à fond devant et que vous ne pouvez rien faire. Là, on commence à se poser des questions parce que même les sportifs qui ne voulaient pas se doper, moi j'en ai rencontré un certain nombre, ils disent mais là on ne peut plus faire le métier. C'est-à-dire qu'on se prend 4-5 minutes dans une bosse.
Leur pratique, hein. C'est ouais. Qu'effectivement, par souci d'équité, dans la mesure où tout le monde pratique.
Donc je fais comme les autres. Hein. Si je veux faire le métier, je suis obligé de prendre. Et il y a un certain. Bon, après, c'est discursif, hein, bien sûr, mais c'est de la rationalisation. Mais quand même, il y a une part de vérité. C'est-à-dire que les gens, ils voient comme ça, mais. Mais avant, lui, je lui en mettais 3 ou 4 dans une bosse. Maintenant, c'est moi qui. C'est l'inverse. Il y a quelque chose qui s'est passé et c'est pas normal.
Et dans l'athlétisme, dans les années 80, on voit un terme qui apparaît, c'est faire le métier, qu'on n'utilisait pas avant. Les demi-fondeurs parlent de faire le métier. Et c'est comme ça que je vois de façon parallèle, pour faire le métier, l'apparition d'hormones stéroïdes et EPO. Avec ces termes, vous voyez, de façon.
Je voudrais rebondir sur un propos que vient de tenir le docteur Ardelin. Le docteur Ardelin dit moi aussi, dans mon cabinet, à Font-Romeu, je suis confronté aux mêmes demandes de pharmacopée de mes sportifs, c'est ce que je venais de dire. Et, d'accord. Et pour résister à ces demandes, vous avez évoqué l'idéologie. Je crois que c'est le propos que vous avez entendu. J'imagine que votre déontologie médicale également vous permettrait de résister éventuellement à des demandes excessives. Je voudrais revenir, donc, c'était tout simplement pour essayer de faire également, tenter en tout cas de faire une transition également, revenir sur cette idéologie. À une époque, quand j'étais un peu plus responsable aux affaires, on essayait de trouver au sein dans notre pays une voie un peu originale pour construire, pour les jeunes sportifs qui s'engageaient dans le sport de haut niveau, une voie originale. Originale par rapport à quoi ? Par rapport à deux systèmes. Celui qu'on décriait de l'Allemagne de l'Est et celui ultralibéral des Américains, des États-Unis, du monde anglo-saxon de manière générale. Et c'est sur ces bases-là que l'on a fondé, docteur Ardelin a repris ce terme, les sections sport-études. J'ai rappelé quel avait été le cheminement. Et aujourd'hui, vous avez entendu. Les charges d'entraînement, combien elles ont évolué en natation, mais on pourrait le dire, je crois, dans toutes les disciplines. On s'interroge si, entre guillemets, cette idéologie à laquelle je fais référence est toujours compatible. Alors, je me retourne vers vous, Marc Lévesque. Dans les milieux sportifs, de manière générale, chez les dirigeants, on s'inquiète beaucoup quant à l'avenir de cette idéologie dont on pense qu'elle est singulièrement malmenée parce que l'engagement bénévole diminue, les pressions économiques s'accentuent, les exigences de la haute compétition s'accroissent, les progrès de la médecine, de la chimie qui dénaturent les compétitions sont présentes. Comment nous aider et quelle idéologie aujourd'hui il faudrait, face à cet nouvel environnement, tenir en regard d'un sport qui se professionnalise de plus en plus ?
Ben, moi, je ne sais pas vous répondre, parce que d'abord, pour vous répondre, il faudrait que je puisse étendre ma grille d'analyse qui est à dominante psychologique ou psychosociologique à d'autres sphères, et je ne maîtrise pas. Donc, je ne sais absolument pas vous répondre. Je ne sais pas jouer les devins, je ne sais pas ce que le sport va devenir. De ma petite fenêtre, je vois que le sport, dans sa construction idéologique, il est actuellement l'objet de convulsions internes et d'attaques externes. Ça, c'est clair. Hein ? Mais pour l'instant, l'idéologie sportive, c'est juste un analyseur, le terme d'idéologie, pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est guère plus que ça, c'est un concept, c'est un analyseur. Pour l'instant, l'idéologie sportive, non seulement, comme ça a été dit ce matin très bien par François Dubé, non seulement elle a montré suffisamment d'étendue, suffisamment d'enracinement pour devenir universelle, c'est-à-dire que malgré les micro-cultures locales, géographiques, territoriales, les arcs-boutants de cette idéologie sont partagés. La valeur du dépassement, la valeur de la solidarité, du respect de l'autre, la valeur de l'effort et tout ça, ça transcende les différences. Et d'autre part, par rapport à ces convulsions actuelles, ces coups de canif, et c'est souvent plus que ça qui sont donnés à l'équilibre finalement du système sportif et de ses valeurs, ben on voit qu'il résiste plutôt bien. Il résiste plutôt bien et probablement que le sport de haut niveau n'a jamais été aussi soutenu par des valeurs sociales, bon, qu'on va qualifier un peu rapidement de néolibérales et globalisatrices, globalisation, mondialisation. Le sport de haut niveau n'a jamais été autant soutenu, sauf peut-être dans les pays de l'Est à l'époque communiste, où il était soutenu aussi par un système de valeurs politiques. Néanmoins, on peut voir, et là j'emprunterai à d'autres auteurs pour dire ça, on peut voir que par rapport aux dangers qui le guettent, le monde sportif réagit comme ont toujours réagi les idéologies lorsqu'elles sont menacées, c'est-à-dire notamment par des processus de bouc émissaire, d'exclusion, c'est-à-dire que de temps en temps, on voit comment, par rapport au problème du dopage par exemple, on voit comment de temps en temps, il y a un coup qui est monté par l'institution sportive pour expulser la brebis galeuse qui viendrait menacer cette idéologie dans ses valeurs. Mais c'est des coups, c'est-à-dire que c'est on en sacrifie un pour protéger les autres à l'intérieur. Hein. Et ça, je vous renvoie à Isabelle Keval, à Georges Vigarello, qui explique bien ça. Je veux pas, moi, j'ai pas les moyens, les connaissances, les compétences pour prendre position par rapport à tout ce qui se fait en matière de lutte contre le dopage, mais il y a des sociologues qui ont repéré ce mécanisme, c'est un mécanisme en fait de sacrifice d'un qui est peut-être un peu plus coupable ou pas forcément plus coupable que les autres, et puis de façon retentissante, de façon visible, on le sort du système ou on prend une position dure comme ça qui en fait a pour fonction de légitimer pour à nouveau une bonne période le socle de l'idéologie. Hein. Mais mon opinion, toute modeste ici, c'est que l'idéologie résiste bien et qu'elle est, j'aime bien ce terme-là, le percolateur, là, c'est-à-dire qu'elle est partout, elle suinte dans le quotidien. C'est une façon d'interpréter le réel, c'est une façon de vivre le réel, de le partager. Vous l'avez dit à propos du flirt, hein ? Qu'est-ce que c'est qu'un flirt ? C'est rien du tout, ça ne met pas en danger la performance. Mais dans cette construction idéologique, c'est interprété d'une certaine façon. Je vais donner un autre exemple pour finir. Moi, je l'ai vécu comme choquant, peut-être ça ne vous choquera pas. Je fais de la formation d'entraîneur de football. Et un entraîneur de haut niveau m'a dit un jour, comme ça, Les jeunes joueurs de foot, les pros, ils aiment bien les mises au vert. Donc ils aiment bien être 2-3 jours avant le match, dans un hôtel, à la campagne, tout ça. Ils aiment bien les mises au vert parce que comme ça, ils sont protégés des cris de leur gamin qui crie la nuit et qui les dérange. Je ne sais pas si vous percevez comment c'est une façon d'interpréter le réel qui est clivé, ce qui est le propre des idéologies. C'est-à-dire on voit une face et on ne veut pas voir l'autre. Qui a décidé qu'un jeune papa était dérangé par, fût-ce un sportif de haut niveau, était dérangé par les cris de son bébé ou de son jeune enfant ? Qui a décidé ? C'est la logique d'entraîneur qui a décidé, c'est donc c'est l'idéologie qui façonne les comportements et les interprétations du réel que font les entraîneurs, que font les dirigeants, que font les responsables sportifs et que peuvent faire à l'occasion les intervenants périphériques que nous sommes.
Monsieur ?
Oui, bon, je suis un entraîneur.
Alors... Il n'est parfait.
En plus, je suis entraîneur bénévole.
Ça vous aggrave votre cas.
J'aggrave mon cas. Et voilà, donc j'ai écouté bien M. Brissonneau, là, donc ce qu'il me dit me hérisse, pas parce qu'il dit, mais par des réalités, et par rapport au dopage. Donc, je suis entraîneur d'athlétisme depuis une quarantaine d'années déjà, et je dirais que, quand vous parlez du cyclisme, c'est clair que moi, je suis entraîneur à demi-fond. Hein. Donc, dans le cyclisme, demi-fond, donc, les courses de durée. Non, athlétisme. Athlétisme. Donc, je suis dans les efforts aérobie. Donc, je dirais qu'au niveau du cyclisme, c'est beaucoup plus culturel que dans l'athlétisme. Depuis longtemps, il y avait les soigneurs. Il n'y a jamais eu de soigneurs en athlétisme. Il y avait les soigneurs. Donc, il y avait toute une idéologie autour des moyens exogènes. J'ai un exemple à citer. Ça se passe il y a quelques années, un championnat de France de cross à Eyre-sur-Adour, où il y avait un jeune cycliste qui n'a pas mangé ce que lui proposait l'organisateur, qui avait amené sa propre gamelle, et qui a pris un cachet d'aspirine. La professeure d'éducation physique lui demande « Tu es malade ?»« Non, je prends de l'aspirine pour fluidifier mon sang. » Bon, vous savez bien qu'un cachet d'aspirine ne va pas fluidifier le sang. Un, que ça ne va pas améliorer sa performance. Deux, mais il va le croire. Il aurait pris n'importe quoi, n'importe quel, de l'eau de fond romeux ou d'Alès en Cévennes, ça aurait été la même chose. Hein. Il y a quand même une culture. Quand vous dites que dans le demi-fond français, dans les années 80, il y avait des gens qui parlaient de faire le métier, je pense que vous travaillez par échantillonnage. Ce n'est pas dans mes échantillonnages à moi. Je ne sais pas où c'était. Parce que le dopage dans le demi-fond français, moi je peux vous dire quand c'est qu'il est arrivé. Il est arrivé à partir de 1994. Il s'est développé énormément. Maintenant, il en a pris un petit coup sur la tête.
Quand vous parlez de dopage, quel produit?
Je ne sais pas. C'est vous qui avez parlé de dopage. Qui faisait le métier.
D'accord.
L'expression. Moi, bon, l'expression, je ne la connais pas encore dans le milieu. Hein. Et pourtant, je suis bien introduit dans ce milieu-là. Hein. Donc, je connais bien tous les acteurs depuis 20 ans. Hein. Donc, je pense que la seule chose qui puisse sauver le sport, ce sont les entraîneurs. À partir du moment où ils ont une idéologie, à partir du moment où, pour moi, pour parler de mots que je comprends mieux, ils ont des valeurs à transmettre. Et c'est ça qui est important. Qui c'est qui est sur le terrain en contact des athlètes tout le temps? De temps en temps, il y a le médecin, mais c'est rare, n'est-ce pas? C'est rare, vous avez la chance, vous, d'y être en contact. Mais quand vous êtes dans une ville lambda, où les gens ils voient un médecin de temps en temps, leur médecin de famille, etc., etc., soyez une entorse, c'est une affaire pas d'État, mais c'est une affaire de département. Hein. Donc, ce que je voulais dire, c'était que c'était ça, ce qui était important, c'est que les valeurs doivent être transmises par quelqu'un, mais ce quelqu'un, il doit avoir, je crois que c'est un tic de psychologue, c'est un socle psychique, et ils doivent exister pour eux-mêmes et non pas pour leur athlète. Parce que ce matin, j'ai bien ri quand on a parlé de l'ancien entraîneur de Mademoiselle Manoudou, hein, qui est en représentation, hein, il faut le reconnaître, c'est pas sa place, c'est pas lui qui passe la ligne d'arrivée. Hein. Et ce matin, j'ai entendu, on a parlé du haut niveau, etc., etc., et on a parlé de conduite addictive, hein, et je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que ces conduites addictives, elles commencent très tôt, et notamment au niveau de l'enfance. Et là, on parle pas de sport de haut niveau, là. On se met dans une situation, M. Ardelin, lui, quand il les a à fond romeux, il commence à avoir des gens déjà qui sont déjà préformatés. Donc c'est dans la phase d'avant qu'il y a des choses importantes à faire. C'est là où je dis que, évidemment que l'entraîneur, il est responsable, mais il ne l'est que dans la mesure où il a la culture suffisante pour le faire, quoi, pour apporter quelque chose, et qu'il puisse transmettre des valeurs. Or, ces valeurs-là, elles viennent de l'éducation qu'on a eue, qu'on a reçue, et deuxièmement, le hasard qui fait qu'on a rencontré quelqu'un, un tuteur, un compagnon qui vous a amené à apporter des valeurs. Sinon, regardez, on va parler là. Il y a combien de bouquins qui sortent sur le dopage actuellement? Il y en a combien qui sortent sur la physiologie? Les choses qui font que le sport est important parce qu'il est lui-même. Aujourd'hui, on en est dans l'explication de ce qui détruit le sport. Et ce qui va dire que je ne suis pas contre le dopage, je suis furieusement contre. Et je fais tout ce que je peux tous les jours pour empêcher qu'il existe, mais d'une manière préventive, pas curative. Je n'ai pas les moyens.
Donc à Font-Romeu, bon, je ne reçois pas de cyclistes au centre d'entraînement. Pourtant, les Pyrénées sont magnifiques et Font-Romeu aussi. Hein, je je vous mettrai les images la prochaine fois. Je reçois énormément de coureurs de demi-fond, et en ce moment, la semaine dernière, il y en avait pas mal, français ou d'autres pays en préparation olympique. Et malheureusement, je crois que c'est les seuls sportifs que je reçois sans entraîneur. C'est leur fonctionnement qui veut ça, mais ils ont l'entraîneur au téléphone le matin et le soir. Et si les entraîneurs ont sûrement une très bonne influence sur leurs sportifs, les stagiaires qui viennent s'entraîner à Fourmeux sont sans entraîneur. Et c'est au risque de vous mettre mal à l'aise, ce que je ne souhaite pas. Mon métier, c'est de rendre les gens à l'aise avec leur corps, avec leur conscience. Mais c'est les athlètes de demi-fond qui sont les plus demandeurs, c'est leur discipline qui veut ça aussi, mais d'injection de vitamine B12, de fer. Alors quand je leur explique que dans l'alimentation, s'ils mangent un peu plus de viande, d'abats ou autre, qu'ils peuvent aussi, mais ils sont très très demandeurs d'injection.
Il y avait juste une chose, monsieur Brisson, je voulais simplement une chose. Vous avez dit tout à l'heure que parfois on prenait un exemple, on tuait la brevet galeuse. Vous avez un exemple en 2003 au championnat du monde qui a eu lieu, d'athlétisme qui a eu lieu à Paris, Chouki sur 1500 mètres. Lui, on l'a éjecté, pas l'autre.
Dans ce que vous avez dit, bon, y a beaucoup de choses, y a plein de facettes. Je vais essayer de répondre très rapidement. La pharmacologie, c'est pour ça que j'ai du mal à parler de dopage. Je parle de pharmacopée en général. Commence déjà à la fin des années 1890, où les gens de l'athlétisme prennent de la pharmacopée. Les stéroïdes anabolisants sont rentrés en athlétisme en 1966 par les lancers lourds. Ensuite, au niveau, quand je parle, c'est plutôt la fin des années 80, je crois que c'est en 83 que l'athlétisme devient professionnel. Et donc, l'IAF avec Nebbiolo. Et donc, ce que je décris, c'est bien le haut niveau. Donc, l'INSEP, bataillon de Joinville, que j'ai pas mal fréquenté. Et donc, quand je dis qu'apparaît ce terme, c'est pas au niveau de l'athlétisme régional, c'est au plus haut niveau où ce terme commence à apparaître et va se développer tout au long des années 90. Et donc, les produits sont déjà pris dans les années 60. Dans le demi-fond, ils vont commencer à en prendre à la fin des années 80, au début et pendant les années 90. Ce que je veux dire également, c'est que la différence entre l'athlétisme et le cyclisme, c'est que dans le cyclisme, effectivement, j'ai vu beaucoup de pharmacopées, aussi bien chez les professionnels que chez les gamins. On n'a pas ça quand même en athlétisme, c'est quand même une différence. Et dernière chose, au niveau des entraîneurs, si on regarde ce que j'ai accumulé au niveau des entretiens, ce qui apparaît en filigrane, c'est que je décris des gens qui luttent contre le dopage. Les médecins luttent contre le dopage, mais je parle d'ambivalence et pas d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'ils sont contre le dopage, mais que ce qu'ils vont mettre en place va favoriser la pharmacopée. Et finalement, je me suis aperçu que moi-même, j'étais entraîneur pendant 20 ans, j'ai été au niveau, j'ai vu pas mal de choses. Ce que je veux dire à travers mon travail, c'est qu'on tient des discours, peut-être contre le dopage, mais que ce qu'on exprime tous les jours, en modelant les corps à travers nos discours, eh bien favorise la pharmacopée. Donc effectivement, on a peut-être des gens qui sont de bonne aloi, qui sont contre le dopage, mais ce que je montre, c'est que finalement, les discours qui sont tenus favorisent la pharmacopée. Et c'est bien en cela que, quand on forme des entraîneurs à travers les brevets d'État, je vais prendre le cas de ma femme qui a passé le Bézagne il y a 2-3 ans, elle a appris à la natation à placer la main, la physiologie, la biomécanique, à être dans l'idéologie de situs altus fortus, pas de santé. Et au moment de l'examen, on lui a demandé pendant une demi-heure, parlez-moi de l'éthique sportive. C'est-à-dire qu'elle n'a eu aucun cours, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune réflexion éthique. Si finalement, pourquoi on apprend, pourquoi on fait la natation, pourquoi on y réfléchit. Alors, je ne sais pas si des choses ont changé depuis un an ou deux ans, mais en tout cas, c'est au moment de l'examen qu'on lui a posé la question, alors qu'avant, on lui avait appris à être plus performante, et à aucun moment, il y avait eu de cours d'analyse critique. Si, il y a eu des cours sur le dopage. C'est un médecin qui est venu expliquer les différents produits.
Oui, bonjour, Christelle Feder, je suis psychologue clinicienne, je travaille dans un centre médico-sportif dans le 11e arrondissement de Paris qui s'appelle Mepsilo, et ce CMS jouxte un club de sport spécialisé dans les boxes et les arts martiaux. 90% nous faisons des VNCI, donc des visites de non-contre-indication à la pratique du sport, et Christophe, vous parliez en fait du monde extraordinaire, du monde ordinaire, et de la prise de stéroïdes anabolisants, surtout dans l'arrivée dans le monde extraordinaire. Et est-ce que vous ne constatez pas, depuis quelques années, que justement la prise d'anabolisants intervient aussi dans le monde ordinaire, de plus en plus, et dont, par exemple, moi je le vois énormément dans chez des gens qui pratiquent des activités qui sont le pancras, le jiu-jitsu brésilien, le free fight, enfin ces nouvelles activités qui ne sont pas des activités reconnues au niveau, mais qui font beaucoup d'émules. Et je vois beaucoup de jeunes sportifs qui prennent des cocktails de manière très banale, voire qui détournent des anabolisants à destination normalement de chevaux, enfin, des produits vétérinaires, et cela de plus en plus.
Alors, premièrement, je ne dis pas qu'il y a de la pharmacopée de façon aussi développée dans tous les sports. C'est-à-dire que les différents sports sont à des niveaux différents. Et ce qui permet de comprendre, je dirais qu'on peut apprécier la question de la pharmacopée, c'est-à-dire elle se pose, je ne dis pas qu'on prend des produits, mais la question de la pharmacopée se pose de plus en plus à partir du moment où le sport se scientifise. Si on prend le cas des sports collectifs, on s'aperçoit qu'on s'entraîne 2-3 fois par semaine et on parle de tactique, de technique. Et je m'aperçois que c'est à partir du moment où arrivent les médecins-chercheurs, où arrivent les préparateurs physiques dont je fais partie, où arrivent les scientifiques, qu'on apprend à mieux s'entraîner et que commence à se poser la question des produits. Donc je dirais qu'on ne peut comprendre comment se pose la question de la pharmacopée qu'en fonction du niveau de scientifisation et d'utilisation de la préparation physique, scientifique, dans chaque sport. Premier élément. Deuxième élément, je vais prendre le cas du cyclisme. Le cas du cyclisme, c'est un sport autoporté. Et je me suis aperçu que donc chez les professionnels, on parle de produits de santé. Mais c'est un sport, du fait de sa spécificité, et puis aussi parce qu'il y a de l'argent, enfin spécificité, je dirais, mécanique, qui fait qu'on peut faire du vélo encore à 40 ans. Et donc, on voit des professionnels qui redescendent chez les amateurs et qui expliquent comment on fait. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre comment va se diffuser ce qu'on va appeler la culture de la pharmacopée chez les amateurs. En athlétisme, moi j'ai fait du triple saut, c'est extrêmement traumatisant, et c'est bon, j'ai donné. Donc ce qui fait que je ne redescends pas, si jamais j'avais voulu me doper ou d'autres qui prennent des produits, il y a bien sûr des gens qui sont des vétérans, mais ils restent entre eux. Il n'y a pas, le haut niveau ne redescend pas chez les amateurs dans beaucoup de sports. Donc c'est en cela que ça permet, dans ces sports-là, de limiter toute la question de la pharmacopée. Troisième élément de réponse, c'est qu'ensuite, il y a certains sports dont les sports de combat sont très proches des cités. Le recrutement se fait dans les cités où circulent plus facilement un certain type de produits. Et il faut savoir que dans ces sports de combat, qu'est-ce qui revient ? Ce n'est pas la douleur énergétique, ce sont les coups. Et on retrouve les produits qui étaient utilisés en boxe dans les années 1800-1890. Ce sont des produits pour oublier à nouveau la douleur, cocaïne, produits psychoactifs, etc. Donc il y a une spécificité de certains sports de combat, évidemment pas la boxe française, mais certains sports de combat où on peut comprendre que les produits arrivent, mais ils arrivent des cités, et c'est en même temps parce que les autres en prennent, c'est pas simplement pour se doper. Vous voyez, enfin, il y a une confusion. Enfin, voilà un axe explicatif pour comprendre s'il y a de la pharmacopée et quel type de pharmacopée. Ce n'est pas des stéroïdes, de la cortisone, ou alors, enfin, mon avis, c'est pris pour essayer une fois sans plus. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait de...
Ah non, moi j'ai vraiment l'exemple de gens qui ne viennent pas forcément de cité, loin de là, qui sont là vraiment pour avoir beaucoup plus de force, qui sont dans des sports de force, donc free fight, des sports de sol, beaucoup, et qui prennent des produits en connaissance de cause, qui ne se les font pas forcément... Enfin, en tout cas, passer entre eux comme ça pour essayer. Ils savent vraiment ce qu'ils font avec. En tout cas, ils ont un vrai but, une vraie connaissance du produit. Ils se les repassent dans le sens où c'est difficile. Enfin,
avec ils sont passés dans le bodybuilding.
Pardon ?
Ils sont passés dans le bodybuilding ?
Non, justement. Enfin, je veux dire, là, dans le club, il n'y a pas du tout ni d'haltérophile, ni de bodybuilder, ni de... C'est pas du tout dans ces disciplines-là. C'est vraiment dans un but d'acquérir de la force, du muscle pour la pratique, et qui sont dans cette première phase de monde ordinaire, qui font des petites compétitions qui n'ont rien d'extraordinaire, mais qui ont des possibilités, qui ont des résultats, qui veulent gagner du temps et arriver... Arriver plus vite.
Je vais venir faire une enquête ethnographique et je vais me mettre à la boxe.
Le monsieur qui est passé tout à l'heure a fait une parfaite introduction à ma question. J'aurais voulu savoir quel rôle vous attribuez à l'entraîneur dans tout ce monde. Vous parliez de la pharmacopée, puisque c'est le terme que vous employez tout à l'heure. Et j'aurais voulu savoir en fait comment vous placez l'entraîneur, et vous avez apporté un petit élément de réponse. Comment vous pensez le préparer à tout ça ? Parce que l'entraîneur est au milieu, est dans un système, il fait partie du système quelque part. comment vous le situez et comment vous pourriez éventuellement le préparer, ou comment
le préparer à quoi?
Comme vous disiez tout à l'heure, vous avez dit votre femme a passé le Bézagne il y a 2-3 ans, elle a eu des questions sur l'éthique du sport ou de son sport, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il serait bon d'apporter une sensibilisation plus importante dans les métiers d'entraîneur à toutes ces notions que vous venez de définir et d'expliquer pendant 1h30, 2h? Enfin, je voulais connaître votre point de vue par rapport à ce sujet-là.
Ben, pour moi, enfin,
tout à fait.
C'est la question, je dirais, ce sont les valeurs qu'on veut faire passer, mais les valeurs, elles passent avec le temps, avec un certain type de discours. Il faut savoir que des fois, dans les discours, on dit des choses qu'on ne voudrait pas dire. Donc pour moi, c'est là qu'interviennent les médecins, qu'interviennent les sociologues, qu'interviennent les psychologues. Il faut que ces choses dont on parle pour lutter, pour avoir un sport qui se porte mieux, il faut qu'après, ça se transforme dans les savoirs qui vont être inculqués dans les formations d'éducateurs, d'entraîneurs. Et donc là, j'ai parlé moi-même, moi je suis de STAPS, et c'est vrai qu'on passe peut-être, ça nous est reproché, moins de temps aux techniques sportives pures. On voit beaucoup, peut-être plus de sport, mais également c'est vrai qu'il y a pas mal de temps qui est passé, moi-même je peux intervenir, où on essaie de travailler, c'est pourquoi on fait de l'activité physique, pourquoi on fait du sport, voilà le sens qui est donné, et le petit reproche que je fais, mais c'est justement parce que je veux pas simplement dire c'est noir, c'est aussi apporter à partir de mes travaux qu'est-ce qu'on peut voir, c'est peut-être aussi à un moment ces entraîneurs passaient peut-être un petit peu moins de temps aux techniques, mais à un moment s'intéressaient pas aux sportifs, s'intéressaient à l'homme ou à la femme, et justement de travailler un moment pourquoi on fait ça. Voilà, je vais laisser également la parole.
Moi, je me suis intéressé à la psychologie du métier d'entraîneur. Hein. J'ai toujours pensé que c'était une personne... Si le sport de haut niveau, c'est un système, comme ça a été dit, système régi par un ensemble de valeurs, l'entraîneur, c'est une plaque tournante, c'est l'agent central, c'est la personne clé, parce qu'il a accès à tous les autres protagonistes. C'est le seul qui ait accès à tous les autres protagonistes. Et puis aussi parce qu'on lui a conservé dans le système sportif une autorité forte. Je ne vous fais pas de dessin sur la différence entre l'entraîneur et l'enseignant, par exemple. Il est ce personnage clé. Alors, il y a deux choses qui manquent, à mon avis, qui sont clairement déficitaires. C'est qu'on ne le prépare pas à un métier sous toutes ses formes, sous tous les angles. On ne le prépare pas à communiquer, on ne le prépare pas à gérer ses émotions, on ne lui apprend pas à faire des choses que malgré tout il doit assumer. Vous savez bien que l'entraîneur, il a tout à faire et il n'est pas préparé à ça. Et surtout, pour faire court, dans les formations, on ne lui apprend jamais à ce qu'on appelle communément le savoir-être, la relation, la réflexion sur sa pratique. On lui apprend pas à... On lui demande d'ailleurs la plupart du temps, pas son avis, à l'entraîneur de haut niveau. Il est dans un tuyau là où il est athlète de haut niveau, et puis presque aussitôt il est propulsé entraîneur. La formation qu'on lui donne ne l'incite pas du tout à réfléchir aux aspects humains, relationnels, déontologiques qui vont être au cœur de son métier. Et en gros, on lui donne une formation. Insuffisamment. On lui donne une formation à dominante technique, et alors que le métier est un métier de ressources humaines, quoi, globalement, hein, de plus en plus. Et là, il y a un gros déficit.
En une dernière question, mademoiselle, madame, pardon.
Oui, donc moi, ma question serait plus adressée à Marc Lévesque dans ma pratique de psychologue clinicienne qui rejoint aussi la vôtre. Par rapport à cette idéologie sportive, finalement, nous, je parle des acteurs sanitaires, qu'on soit les médecins, psychologues, on vient se confronter et se frotter autour de cette idéologie sportive Et puis maintenant, dans un plan aussi national, avec la mise en place, par exemple, du bilan psychologique dans le suivi médical, où on vient faire de la prévention et puis du repérage de difficultés psychologiques, pas simple d'intégrer un bilan psychologique dans le suivi médical de sportifs auprès des institutions sportives. Je fais partie du CAPS. Au sein du CAPS, on essaie de mettre en place un travail de sensibilisation des problématiques et de la psychopathologie auprès des entraîneurs. Pas simple non plus de réunir des entraîneurs et puis de leur poser des questions et puis les confronter à leurs pratiques et puis à leurs croyances par rapport au travail qu'ils font au quotidien. La question que je vous pose, c'est finalement, est-ce qu'on ne va pas, dans cette, notre politique actuelle d'intervention, creuser un fossé entre les institutions sportives et nous, acteurs sanitaires, plutôt que finalement, si l'idéologie est aussi forte, plutôt que finalement se rapprocher d'eux et de pouvoir travailler ensemble et de trouver un compromis, puisqu'il me semble que c'est la seule solution, entre l'activité sportive intensive et la préservation de la santé psychique et physique du sportif de haut niveau.
Je suis content que vous posiez cette question, mais en même temps, elle est lourde. L'institution sportive, elle a trouvé la solution. Je ne vais pas parler pour les médecins, je ne suis pas autorisé, mais pour les psychologues, elle a trouvé la solution, c'est que l'institution sportive a inventé le préparateur mental. Et lui il n'est pas tiraillé entre sa déontologie et l'idéologie du milieu. Je le dis tranquillement devant un préparateur mental qui est dans la salle et que je connais un peu, puisque nous étions ensemble pour sa soutenance de thèse il y a quelques jours. Je le dis tranquillement, mais en mettant pas tout le monde dans le même sac quand même. Il y a des préparateurs mentaux avisés qui ont une déontologie. Mais la solution, elle est simple. Si le psychologue, il a cet objectif d'accompagner un projet, de laisser advenir une dynamique individuelle, hein, et non pas de formater quelqu'un pour être un bon sujet dans le système... Eh bien, le psychologue, il est à la marge de l'institution, voire il est persona non grata dans l'institution sportive. D'ailleurs, on sait bien qu'il n'a qu'un strapontin, et c'est probablement pour ça. Et un psychologue qui jouerait pleinement le jeu de l'institutionnel, qu'encore une fois, je suis pas ici en position bromienne ou sociologie rouge. Hein. J'ai travaillé sur le terrain, je tiens à le redire quand même, et je continue d'y aller. Mais le boulot, la déontologie d'un clinicien, c'est de s'occuper du sujet et de son projet, et pas de faire... et pas de légitimer au sujet avec lequel on est en situation d'entretien, par exemple, les exigences de l'institution. C'est à lui de trouver sa voie dans un cadre qui est favorisant, qui est le cadre institutionnel, mais c'est à lui de décider s'il a envie ou pas et selon quelle modalité il a envie. Donc moi, je suis très, très tranquille, mais c'est parce que je suis vieux maintenant que je me suis fait une morale personnelle, enfin, appuyée sur la déontologie classique. Je ne suis pas un agent de l'institution, mais je ne suis pas non plus en dehors de l'institution. Alors quand on travaille en libéral en cabinet, c'est probablement beaucoup plus facile que quand on est sur le terrain sportif, un pôle ou une institution comme ça, parce que là, on est à la fois sollicité par la règle du jeu général, institutionnel, et en même temps, on se doit d'être à l'écoute et dans l'accompagnement du projet individuel. Ça peut nous arriver, par exemple, en tant que clinicien, ça vous est peut-être arrivé qu'un sujet sportif de haut niveau vienne et vous dise, en aparté, bien sûr, en entretien, demain j'arrête, tout ça, ça me gave et je ne veux plus en entendre parler, hein, des adolescents, par exemple. Ben, nous, on est là pour accueillir ça, ça ne fait pas plaisir à l'institution, mais ça fait partie de notre travail d'aider à élaborer ce type de position.
Je crois que c'est la vertu d'un rassemblement de ce type. Trouver les voies de la convergence au travers peut-être effectivement des interventions pluridisciplinaires comme celles que l'on vient d'entendre. Et j'en profite que Sabine Afflelou est présente avec nous pour lui redire que j'espère qu'au jour de l'occasion de la troisième édition, il y aura encore davantage d'entraîneurs et de dirigeants
et que cette convergence à laquelle on aspire tous, elle sera encore plus facile à établir au fur et à mesure qu'on va avancer. Le débat que je viens d'entendre sur les cliniciens, c'est ça, c'est celui que j'ai souvent entendu, auquel j'ai souvent assisté, entre les médecins de la performance et les médecins d'aptitude, de manière générale, sont des questions qui traversent en permanence la question. Ce qu'évoquait le docteur dans le secret de son cabinet, quand il reçoit des jeunes, et que ces jeunes du haut, du Mifon ou d'ailleurs, viennent de lui solliciter pour une pharmacopée XYZ, bon, c'est à sa déontologie personnelle, effectivement, qu'il fait référence, mais c'est aussi à son statut dans une institution, et que plus cette institution sera forte, plus peut-être le modèle dans lequel nous sommes aujourd'hui, entre un partenariat des pouvoirs publics et un mouvement associatif, sera fort, plus peut-être on arrivera à préserver une idéologie qui a jusqu'à maintenant subsisté et qui a fait aussi, il faut le reconnaître, le succès du sport français. Donc personnellement, je suis particulièrement attaché à cette convergence et à ce partenariat. Je le dis d'autant plus qu'il est quelquefois un petit peu menacé. Et donc, aidons-nous les uns les autres à ce qu'il soit de plus en plus enrichi et préservé par des travaux de ce type. Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs.